Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu as 0 points. C'est qu'il va falloir prendre des points.
Il faut prendre 3 points. Mais chaque match vaut 3 points.
C'est capital, les 3 points qui sont en jeu demain.
Pour nous, ça reste un match à 3 points.
C'est plus que 3 points ce soir ?
Ben non, c'est 3 points.
On a pris les 3 points. C'était bien pour nous parce qu'on a pris 3 points ce soir. Après, prendre les 3 points, c'est magnifique. Mais nous, on est contents parce qu'on a pris les 3 points ce soir.
La coupe concerne tout le monde. On est surtout contents d'avoir pris ces 3 points.
Mais on mérite les 3 points.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous. C'est parti pour l'after en direct sur RMC à la radio, sur Afterfoot TV, sur vos téléconnectés, sur la chaîne YouTube de l'after, où vous pouvez aussi commenter l'émission en direct, l'after ce soir, avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et Jimmy Brown. Salut Jimmy.
Salut Jean-Louis. Bonsoir tout le monde.
Est-ce que vous savez où vous serez dans une semaine exactement?
Non, vous savez pas.
À la douane, probablement.
Ah, c'est ça, à la douane. À la douane. J'avais le doute sur votre ordre d'atterrissage.
Devant les portes du Madison Square Garden.
Déjà,
je pense qu'à la douane, Kevin nous aura déjà saoulé, essayer de parler anglais avec tout le monde. Là. Jouer l'américain, genre moi je connais ici et tout. Tu vas plutôt nous dire si t'as trouvé un coach là, pour ton équipe, vu que la star des bancs des 20 prochaines années vous a lâché. Ouais. C'est qui votre coach alors?
Leur coach, ce sera pour les Lusitanos de Saint-Maur, en tout cas, ce sera Fabien Valéry.
Ouais. C'est une exclu RMC?
Non,
la c'est un fils de François Valéry.
Non.
Aimons-nous vivant.
Non.
Avant que la mort nous trouve du talent.
Ancien joueur du Paris FC, du Red Star.
Qui a fait deux montées avec le Paris Real Atlético. Donc t'as compris l'ambition de Saint-Maur l'année prochaine.
Voilà. Là, c'est bon, vous allez lancer, que vous visez la montée.
Le maintien.
Mais il a une grosse pression quand même.
Ah bon?
Il arrive là après une saison.
Il est bon, hein, François Valéry.
Fabien Valéry. Ouais, il est très bon. C'est un bon coach.
C'est toi qui l'as choisi ou c'est quelqu'un d'autre? Et tu fais genre c'est ta décision?
Non. C'est le président qui l'a choisi et moi qui étais tout à fait d'accord.
D'accord. Ok.
Et ici à RMC, c'est pas toi qui fais tous les choix, Daniel.
Moi, je suis pas directeur sportif.
T'es
directeur sportif et t'as pas choisi l'entraîneur.
C'est Greg Lorenzi qui a choisi Genesio.
J'en espère.
Ils ont discuté, oui, bien sûr.
Ouais, voilà. Pareil, il a discuté, Kevin.
Voilà.
Ah non, je pense que ça a été fait.
C'est d'un commun accord. Mais c'est le président, le boss. C'est lui qui choisit quand même.
Si le directeur sportif choisit pas le coach, il y a un problème.
Oui, mais le directeur
quel
sportif.
Jeu, quel
même
jeu
s'il choisit le coach
à votre équipe, parce que ce sera aussi attractif.
Même si le directeur sportif choisit le coach, il faut quand même l'aval du boss du club. Quand même.
Ah, t'as choisi. Il faut l'aval.
L'aval sportif.
Normalement, on doit suivre tes recommandations si t'es le patron.
C'est un peu ça.
J'ai un doute là.
Mais le vrai patron, c'est le président.
Je suis presque à me demander si c'est toi qui tiens la télécommande à la maison.
À la maison, c'est les enfants qui tiennent la télécommande.
Ouais. Ah, on demande. Il n'est même pas sûr que c'est le choix des repas.
Ouais.
Je pense que tu te mets à table, tu dis « Oh non, pas encore ça.
» Ça, c'est toi, ça.
Discute pas, Kevin. Mange. C'est le canard à la maison, Kevin.
Tu penses?
Je sais pas. Je pensais qu'il était pas trop, mais
caractère et tout, quand même.
Il me fait douter de plus en plus.
On est consensuel. On est dans le partage.
Ok, il décide de rien. Donc, la Coupe du Monde, la semaine prochaine, le 11, ce sera le match d'ouverture. Entrée en liste des Bleus le 16. Et on parlera des Bleus d'ailleurs, parce que demain, il y a le premier match de prépa.
Ils rentrent tard, les Bleus, quand même.
Ils rentrent tard et ils arrivent tard, je trouve, aussi aux États-Unis.
Et ils ont annoncé la liste tôt.
C'est vrai que c'est bizarre.
Il va falloir
attendre 5 jours. Genre, on va arriver, il faudra attendre une semaine avant qu'il y ait le
français.
Il faudra attendre d'acclimater. C'est normal, hein. Il faut que.
Dis-toi que tu vas attendre d'acclimater.
Oui, non, bien sûr.
Je trouve que l'attente va être un petit peu longue.
Daniel, il va jouer au tennis?
Il trouve une heure, oui, le matin.
On va pouvoir faire un tennis peut-être contre Daniel.
Prends ta raquette, mon vieux. Je donne les leçons 10h-11h.
Bon, alors après, je rappelle quand même que vous allez aussi. Beaucoup bosser, hein, parce qu'on sera là toute la nuit.
À partir de midi.
De 20h
de 14h heure de New York et de 20h heure française.
Exactement.
Et jusqu'à la nuit, jusqu'à 4 ou 5h du matin.
J'allais le dire en mieux. 20h à 5h du matin en heure française. Après, l'heure aux États-Unis, on s'en fout de ton rythme, mais en France, ce sera 20h à 5h du matin.
C'est bien de le dire, tu vois. C'est à ta raison.
Ah oui. Donc, l'after sera présent. Et puis, donc, on parlera ce soir on va enfin répondre, parce que j'ai l'impression que ça fait 3 jours que vous annoncez la réponse de l'after à Emmanuel Macron. On va le faire ce soir.
Oui, enfin, c'est pas non plus phénoménal, hein, comme réponse. Pas non plus.
Je sais pas, moi j'ai écouté
au final, je me demande si le plus important n'est pas l'histoire de la photo.
Mais c'est pour ça, on a entendu la photo.
La photo, c'est ouf. La photo qui suit le documentaire Mbappé de la housse politique, machin, là, où on a l'impression que Mbappé, dans 5 ans, il est ministre, quoi.
Exactement.
Il y a un excellent Jean-Michel Larquet, pour ceux qui n'ont pas vu.
Il y a un excellent enchaînement entre le conseiller com de Macron et Jean-Michel Larquet juste après sur l'image au Qatar.
Enfin,
tu veux pas attaquer Jean-Michel Larquet quand même?
Non, pas Jean-Michel Larquet, je trouve l'histoire de la photo, l'histoire du doc sur Mbappé, la politique, ouais, ça va, de quoi on parle là.
Ah oui, c'est trop. Oui, on est tous d'accord, mais c'est bizarre le sens de ce que dit Jean-Michel d'ailleurs dans le doc.
Ouais, on l'aime bien et tout. Enfin bon, deux secondes quoi, l'importance qu'on lui donne. Enfin c'est.
Bon, on en reparlera tout à l'heure.
C'est un peu fou quand même.
D'ici là, on aura notre invité Aymeric Magne, l'homme fort du projet Le Mans, la montée en Ligue 1. C'est le représentant de l'actionnaire.
Parce qu'il y a un président, Thierry Gomez, qu'on avait reçu quand on était allé là-bas. Donc il y a plusieurs hommes forts. Mais Aymeric est très important dans l'agrégat Oseille.
Et il adore parce qu'il y a du Joko, il y a tout ce qu'il aime, Daniel, il y a toutes les stars.
Tu vois le gogo, tu vois ou pas, Thibaut Courtois.
Philippe Massa.
J'oublie toujours le nom du mari de Sabrina.
Frangoulis, non, c'est Frangoulis.
Le gars qui a l'oseille, là. Qui fait ses boissons cheloues, là.
C'est Frangoulis, non?
Ah, j'oublie, il a un nom de quegré, mais je ne me souviens jamais de son nom.
Il a un nom de quegré, il a dit. Ah ouais, Daniel. Ah, Daniel, il est quinri, il est tess aujourd'hui. Ah ouais, il est hoche.
Non, mais c'est pas quinri de dire un quegré. Pourquoi on peut pas?
Il est new wave, quoi. Tu vois,
mais je t'explique, je vous donne du off, je l'ai eu au téléphone, il a failli lever un mec tout à l'heure, il est très chaud aujourd'hui, Daniel.
Comment ça, il a failli lever
un mec? Aujourd'hui, il est très chaud, c'est pour ça qu'il parle en verlan.
Laisse tomber.
Non, mais par contre, on ne peut pas commencer à raconter une histoire.
Non, je te dis juste que j'ai été témoin d'une scène où il a failli lever quelqu'un. Donc je me dis qu'il est chaud. C'est pour ça qu'il a parlé
avec lui. Ça va être un gros affaire.
Le mec, il dit au moins 1m15.
Bon, Aymeric Magne sera avec nous dans la deuxième heure. L'after va donner son avis aussi sur la Ligue 1, les infos Ligue 1 du jour. Donc Mathieu Louis-Jean dans Rotten sans flamme. Est-ce que l'OL doit viser mieux que cette saison? Genesio à l'OM, c'est fait. Est-ce qu'il peut réussir avec la pression financière?
Il n'a pas signé contrat.
Oui, mais c'est fait quand même.
Je dis juste qu'aujourd'hui, à l'OM, il y a un entraîneur qui est sous contrat. Et il y en a un qui doit venir qui n'a toujours pas signé.
Attention qu'il n'ait pas signé un contrat ailleurs aussi, comme Lorenzi.
Déjà, il faut reparler de cette histoire qui est un petit peu folle quand même. Mais je trouve très étonnant qu'on n'ait pas encore convoqué Abi Bey pour lui signifier son départ. Enfin, la rupture du contrat, la discussion des indemnes et tout ça. Je ne sais pas pourquoi ça traîne autant en fait.
C'est vrai.
Bon, on est début juin. Enfin, ça va, on sait qu'il ne va pas rester. Pourquoi ça traîne autant? Et Genesio, s'ils sont d'accord, bon, vas-y, signe quoi.
Exactement.
Est-ce qu'au dernier moment, il y a quelqu'un avec plus d'oseille qui arrive et faudrait pas que ça démarre comme un sketch, l'OM, quand même.
32-16 sur tous ces sujets, et puis le direct. Alors, il y a des matchs, déjà, alors qui concernent pas beaucoup d'équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc, il y a 0-0 entre les Pays-Bas et l'Algérie. La RDC aussi y sera, a fait 0-0 contre le Danemark. Et puis, donc, les autres matchs concernent pas des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Il y a quand même un Riolo-Chano qu'on est obligé d'évoquer, puisqu'il y a Luxembourg-Italie.
Et putain, mais il ne l'a même pas dit, je l'ai croisé.
Il a raconté qu'il avait le dernier Italie-Luxembourg, il avait marqué.
Mais non.
Ouais. Et un partout, il avait marqué, c'était en 2014.
T'as pas dit parce qu'il est tendu, il dit qu'il y a moyen de prendre le match là.
L'histoire veut que ce match n'ait jamais existé.
Bon, l'Italie mène 1-0.
Ça doit pas exister comme match de foot normalement.
Non, ça doit pas exister en étant serré. Surtout.
Voilà. C'est ça surtout.
Donc l'Italie mène 1-0, ah oui, but d'Esposito.
Non, j'ai pas suivi là, je suis sur le nouveau sport qui passionne les foules.
Le tennis?
Voilà.
En Italie?
Voilà, exactement.
Et ben on y va.
Le foot m'intéresse plus.
Le quart de finale 100% italien, Eric Salio à Roland Garros.
Des audiences incroyables.
Salut Jean-Louis, salut à tous. Il y a Daniel qui est là?
Ouais, on est là.
Ah bah évidemment qui ça l'intéresse, ouais. Bah 7-5 2-0.
Tu pensais pas que Flavio allait gagner.
Cavoli?
Ouais.
Ah si.
Non.
Oh. Ah mais alors je peux te dire
tu
que
voyais
Félix,
pas le cas où j'allais si.
Ah, il était détruit, il l'a dit en anglais, I'm destroyed, et il a dit j'ai 26 ans, le temps presse, et je vois que je progresse pas. Je l'ai jamais vu aussi touché après une défaite.
Ouais, je l'ai vu.
4-6, Fabio a été excellent. 4-6 pour Cavoli, et donc pour l'instant, on se dirige vers une demi entre Matteo Arnaldi et donc Flavio Cavoli, puisque Arnaldi, marathon man, puisqu'il est avant ce match,
il est en train de le vider, Berrettini.
Exactement.
Il est en train de le vider petit à petit, c'est très étonnant.
C'est fabuleux. Ce Arnaldi est fabuleux. Moi, j'ai pris un pied absolu il y a deux jours en allant voir son match contre Tiafoe qui s'est achevé à 1h15 du matin. Oui. Et confirme, il mène 7-5, ouais, 2-0. Ouais. Attention, balle de débreak pour Matteo Berrettini.
Mm-hmm. Bon, ça m'a pas l'air crucial non plus pour la suite. Donc attention,
quart de finale de Roland Garros, t'as raison.
La balle de débreak sur le deuxième set.
Oui, t'as raison, Jean-Louis. Il y aura un Italien en finale, c'est ça qui est.
Il est parti jusqu'à 2 du mat, Eric.
À tout à l'heure, Eric. Pierre Sage. Alors, bon, on avait les bonnes infos sur ce dossier hein, depuis le début. À partir de l'interview même de Pierre Sage dans l'after, qui ouvrait la porte à un départ, ou en tout cas qui disait que c'était pas si simple que ça, alors que la veille à Téléfoot, il disait qu'il serait entraîneur de Lens la saison prochaine.
Oui, ça fait un petit moment que dans l'after, on avait compris l'histoire. Oui.
Exactement. Discussion avec l'Angleterre, et ça s'est accéléré aujourd'hui, puisque donc, c'est une info RMC Sport de Fabrice Hawkins, il a annoncé à sa direction qu'il voulait partir. Donc la discussion la plus avancée, c'est avec Crystal Palace.
Il a annoncé hier. Au club.
Voilà. 15e de première ligue. Crystal Palace qui veut remplacer Oliver Glasner qui part à Milan. Il y a d'autres clubs qui sont interrogés aussi pour Pierre Sage, qui s'intéressent à lui.
Glasner arrive à Milan ?
Ce n'est pas encore sûr qu'il arrive à Milan, mais c'est une piste.
C'est la tendance. C'est, la tendance.
C'est une piste.
Ok.
Voilà. On a eu quelques infos dans côté club lensois. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que voilà, on comprend l'envie de Pierre Sage de partir, vu les moyens, vu le salaire bien supérieur. Pierre Sage qui était impliqué dans le projet, etc. Maintenant, pour la suite, il y a un truc qui est très mal passé, ce qu'on appelle la communication maladroite de Sage. Parler de son avenir dès la fête de la Coupe de France ou le lendemain, la fameuse sortie après le match nul à Brest où il avait parlé de trahison concernant certains joueurs alignés.
Ouais, ça, pourtant, on a eu mille explications de ça, parce que lui-même a dit qu'il regrettait cette sortie, tout ça. C'est oui, plus oui. Tout ce qui s'est passé avec le staff médical.
Aussi, enfin, sur Baïdou, oui.
On va dire que mi bout à bout, il y avait une espèce de guirlande qui était en train de se créer petit à petit, d'événements qui bon, ont débouché sur une rupture qu'on pensait impossible.
C'est
il y
ça.
A deux mois, on va dire, et qu'on a commencé à croire possible deux journées de la fin du championnat. Effectivement, c'est devenu inéluctable parce que les mots, au bout d'un moment, avaient un sens et un sens assez fort, quoi.
Alors, on parlera de la suite après. Mais d'abord, moi, j'aimerais bien qu'on entende les supporters lensois dans l'after. Est-ce que, vous lui en voulez à Pierre Sage? On va commencer avec Alexandre, qui est supporter lensois. Et après, comme ça, vous pourrez réagir. Puisque je crois qu'Alexandre, toi, tu lui en veux. Salut et bienvenue dans l'after.
Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel, Kevin, Jimmy, Jean-Louis.
Salut Alexandre.
Je lui en veux. Je lui en veux certes, mais je veux quand même le remercier pour commencer. Il nous a fait vivre une saison un peu exceptionnelle, vice-champion de France, vainqueur de la Coupe de France, la Ligue des Champions, on ne pourra pas lui enlever ça. Maintenant, c'est quand même impossible de cacher la déception. Pendant un an, il nous a raconté la durée, le projet, la construction, il s'inscrit dans le temps long à Lens. 48 heures après la victoire en Coupe de France, on le voit sur toutes les chaînes, chez vous, ailleurs, on comprend bien qu'il prépare la suite de sa carrière et qu'il est en train de faire monter les enchères. C'est son droit. Mais il y a quand même un décalage énorme entre le discours qu'on a pendant un an et la réalité du départ. Ce qui interroge beaucoup, ça Daniel l'a dit, hein, c'est le choix sportif. On parle d'un entraîneur qui quitte un club qualifié pour la Ligue des Champions avec une des plus grandes ferveurs d'Europe et le type va rejoindre un club de milieu de tableau de Première Ligue.
Ça dit alors, énormément Alexandre, sur la... si je peux me permettre, je pense que... alors moi je comprends tes sentiments et j'ai été également supporter d'un club et tout et ces histoires-là me touchaient profondément. Maintenant, alors c'est vrai qu'à chaque fois on me dit ouais, toi t'es blasé, toi t'es ceci cela, mais tu peux pas dire que dans l'after, ça fait quand même très longtemps que malheureusement, parce que oui, c'est malheureux d'être obligé de dire ça, mais il faut arrêter de croire tous ces trucs-là parce que ça n'existe pas dans le foot. Tous les propos qu'on entend, je vais rester longtemps, je vais rester ceci, je vais faire ce. Tout ce que tu es en train de dire là, dans le foot, ça n'existe pas. Il n'y a plus d'affect, ça n'existe pas.
Et sur la suite de ton propos, Alexandre, pardon,
je ne crois pas. Mais c'est malheureux, hein, moi, ça m'embête de te dire ça. C'est juste que, soyez lucide, en fait, il faut aimer votre club en tant qu'entité. Mais les hommes, ne vous y attachez pas parce que tout ça, c'est du bidon.
Et moi, je ne peux pas concevoir, pardon, Alexandre, je te donne la parole juste après, que ce soit une régression de quitter Lens pour Crystal Palace. Tu vas dans un club de première ligue, tu vas te frotter à ce qui se fait de mieux au monde quand tu es entraîneur. Oui, tu ne vas pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, certes, mais pour autant, tous les week-ends, tu vas un peu la jouer.
Salaire,
la Ligue des Champions.
Et dans le football, c'est très important.
Et surtout, évidemment, tu fais x3, x4 en salaire, ce n'est pas négligeable, c'est sûr.
Alors, quand même, le mec, il n'a pas fait une saison complète, hormis celle de Lens. C'est-à-dire que sa progression, il pouvait encore la faire en jouant la Ligue des Champions. Enfin, la Ligue des Champions.
Mais dans le foot, la règle, c'est de ne pas laisser passer les trains quand ils sont là. On a peur que, tu sais, et tu regardes certains joueurs ou certains coachs qu'on annonçait fin de saison X à 20 millions avec un avenir machin. Tu prends 6 mois plus tard, 1 an plus tard, et on n'annonce plus rien pour eux. La phrase archi banale du dans le foot tout va très vite, elle est malheureusement vraie.
Et puis Alexandre,
quand il passe, les mecs ne veulent pas les rater.
Alexandre, toi tu es un supporter et je pense que on peut tous comprendre entre guillemets.
Ah, moi je te comprends.
Ta déception. Et je pense que Pierre Sage la comprend aussi. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent et il comprend qu'il va faire des déçus. Mais aujourd'hui, si tu te mets un petit peu à sa place, parce que aujourd'hui t'es quand même un supporter, tu travailles peut-être, enfin t'as déjà joué au foot, etc. Pierre Sage, quand tu regardes son profil, c'est quelqu'un qui a éclos très tard dans le métier d'entraîneur, alors que ça fait très longtemps qu'il est au bord des terrains. Et donc, aujourd'hui, il a fait une très très belle saison et qu'il ait envie de capitaliser là-dessus au vu des contacts qu'il a. Alors, je comprends que pour toi, Crystal Palace, ça te parle pas vraiment, mais c'est une équipe qui vient de gagner une Coupe d'Europe, c'est une équipe qui a des moyens qui sont 3-4 fois supérieurs. Ça joue à Londres en plus.
Et il y a beaucoup de gens qui, dans le foot, aiment.
Bien sûr. Et puis il y a énormément d'expositions quand t'es en première ligue. À Crystal Palace, tu entraîneras beaucoup d'internationaux, peut-être plus qu'à Lens, malgré que Lens joue la Ligue des Champions, etc., etc. Donc il faut quand même que tu comprennes. Voilà, je pense que ça, en tout cas, c'est ça démarche.
Un rond dans notre football.
C'est ça le problème.
On ne peut plus retenir personne dans notre football. On ne peut plus retenir.
Si je peux conclure,
oui,
le problème pour moi, c'est la dichotomie entre l'image que Sage nous renvoyait du technicien humble, discret, entièrement tourné sur le projet sportif, et le choix qu'il fait là maintenant. Enfin, je veux dire, il a rien prouvé encore, Sage. Il a une saison où il est deuxième.
Ah oui, mais sauf que si on lui propose le truc, il va y aller.
Fois, il restera dans l'histoire du club. Mais, mais
c'est justement parce qu'il a envie de prouver encore plus qu'il veut se fixer un nouveau défi.
Et moi, je comprends pas une chose. Je trouve le procès qu'on lui fait sur sa communication assez rude finalement, parce que on aurait préféré quoi en fait, qu'il dise rien, qu'il dise ouais, je vais rester à Lens, et que là d'un coup, on t'apprenne le 3 juin que non, en fait, dès le départ, il a été transparent. Il a dit moi, étant donné le projet,
il a quand même dit. Mais il est venu chez nous dans le projet. Oui, mais
il est venu chez nous lundi.
Ouais, il y a téléfoot, même si c'est une question oui non.
C'est un oui non, Daniel. Ça vaut quoi?
Il peut pas dire non.
Il vient chez nous.
Honnêtement, je peux comprendre que les supporters de Lens soient déçus. Ces cas-là, c'est déçu parce que tu t'attaches aux gens. C'est pour ça que je répète tout le temps, arrêtez, ne vous attachez pas aux gens et tout, que je passe pour le rabat-joie de service à cause de ça. Mais c'est parce que très souvent, les supporters sont déçus par la parole des gens du football. Mais en fait, ils sont pas dans les mêmes logiques. En fait, il faudrait comprendre leur logique. Nous, on parle avec eux, on comprend leur logique. Mais quand t'es de l'autre côté, c'est plus difficile.
Il est possible de comprendre, mais d'être déçu quand même. Ça, c'est absolument une possibilité.
Moi, je comprends Pierre Sage, mais je suis déçu pour Lens, pour le championnat. J'aurais aimé qu'il reste, etc.
Mais le pire, Alexandre, c'est que moi, je crois que Pierre Sage aurait aimé rester. Mais pour rester, il voulait des. Mais si, moi, je pense qu'il voulait des conditions. Ouais. Aujourd'hui, le football français.
Ça, moi, j'y crois pas du tout.
Ah, s'il y avait des conditions, s'il y avait
très bien que
lui donne 300 000, il reste à Lens.
Il sait très bien que Lens ne peut pas lui proposer ça. Il le sait très bien. Non, moi je pense pas. S'il a la première ligue, je suis sûr qu'il y va quand même. Si on lui garantit que l'effectif reste et qu'il va avoir des recrues.
Et que lui va être augmenté, va avoir le même salaire qu'en première ligue.
Le même qu'en première ligue, peut-être, mais c'est illusoire de penser ça.
Je pense que s'il y a ne serait-ce que 650 millions de droits télé pour les clubs français, que Lens a un budget normal de Ligue 1 pour une équipe qui va se qualifier en Ligue des Champions, il s'en va quand même.
Il a expliqué très clairement que la première ligue, c'était une vraie bascule pour les entraîneurs que tu peux pas connaître en Ligue 1.
Oui, mais il ne peut pas connaître dans cette Ligue 1. Mais dans une Ligue 1, il y a encore quelques années, qui pouvait concurrencer des clubs de première ligue, au moins quand tu jouais la Ligue des Champions.
Où
tu
n'étais pas obligé de vendre tout le temps. Regarde, exactement. Dans un instant,
quand est-ce que c'est arrivé, ça? On a quand même retenu nos joueurs, ils sont toujours partis.
Un petit peu mieux.
Mais quand
tu jouais la Ligue des Champions.
Montpellier, quand ils sont champions, après, il y a tous les joueurs.
C'est quand même mieux quand t'as 650 millions de droits télé que quand t'as zéro.
Oui, mais déjà à l'époque, tu perdais tous tes joueurs chaque année.
Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Moins les entraîneurs. Aujourd'hui, même les entraîneurs veulent se barrer, les directeurs sportifs, tout le monde veut se barrer. Mais c'est normal, il y a plus de thunes.
Parce qu'il y a un marché des entraîneurs qui est différent aussi.
Quand Lens s'est qualifié pour la Ligue des Champions, ils ont acheté Wai 35 millions.
Bah voilà.
Aujourd'hui, ils vont acheter qui 35 millions?
Personne.
Personne.
C'était il y a 3 ans.
Oui, ça oui.
C'était il y a 3 ans.
Ça oui, ça oui.
Mais ils perdent des joueurs aussi quand même.
Hein?
Ils perdent des joueurs.
Non mais ils font
des joueurs.
Ils remplacent. Ils prennent Wai, mais ils font Openda à 60 millions.
Mais là, tu vas perdre, tu vas pas remplacer.
Mais là, tu remplaces pas.
Tu vas faire des paris de deuxième division.
Tu vas prendre des mecs comme ça, quoi.
Non mais ça.
Mais
ça,
c'est la réalité économique. Elle est que tu.
Ce que je veux vous dire, c'est que même en gardant les joueurs, je pense qu'il y avait une chance qu'ils partent aussi. C'est ça le truc en fait.
Moins.
Et moi, je te dis que moins. Une histoire.
Bon. Je te dis que moins.
Bon,
on va
parler de la suite.
J'en suis sûr. Je te dis que beaucoup moins.
Dans une seconde, on parle de la suite avec toi aussi, Alexandre, au 32-16. La suite pour Lens. Il y a quelques noms qui circulent. Tu vas nous donner ton avis. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
22h21 dans l'After avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et Jimmy Brown. On finit sur Lens donc. Je vous donne quand même les infos. On est toujours avec Alexandre au 32-16 pour la suite. Donc l'option Cahuzac numéro 1, c'est pas envisagé, puisqu'en plus il a pas le BEPF, donc ça veut dire qu'il y aurait amende à chaque
donc,
fois.
Donc il lui faut une couverture.
Voilà. Une couverture ou un entraîneur principal.
Oui, enfin, quand je dis une couverture, c'est un binôme, il va faire binôme.
Voilà, c'est ça.
Et avec qui il peut faire binôme?
Alors, l'info RMC, c'est avec Videra qui a été contacté. Donc, on en parlera tout à l'heure avec Aymeric Magne. Donc, celui qui a fait monter Le Mans.
On aura clairement une réponse puisque ça tombe bien, coïncidence, Aymeric Magne, Du Mans est avec nous. Mais le duo.
Il y a le nom de Pantaloni aussi.
Le duo, c'est de refaire le duo.
Moi, j'ai pensé à ça tout de suite.
Oui.
Pour laisser, parce qu'il faut savoir un truc.
Mais c'est d'ailleurs, je vais pas dire ça tient la corde, mais l'option existe.
Quand tu rentres au BEPF, tu peux être entraîneur de Ligue 1 numéro 1 que si l'année d'avant tu étais dans le même club. Donc il aurait pu être numéro 1 à Lorient, Cahuzac, mais il peut pas être numéro 1 à Lens parce qu'il arrive en formation, il arrive dans un nouveau club. Par contre, si tu es accompagné sur ta première année par un entraîneur que tu connais bien, qui te connaît bien, sachant que quand tu es au BEPF, tu as quand même des semaines où tu seras absent, c'est peut-être une option qui est intéressante.
Elle est pas un peu bancale la règle de pouvoir être numéro 1 à Lorient mais pas à Lens, alors que sachant qu'il avait déjà été adjoint à Lens, si je dis pas de bêtises, à l'époque Franck Hez.
Oui.
Cahuzac, je me demande si pas dans le staff à cette époque-là.
Il part du principe que quand tu es dans un club et que la formation d'entraîneur, elle est quand même très lourde, que ce soit en termes de temps et en termes aussi tu vas apprendre beaucoup de choses, mais bon bref, tu seras absent quoi. Et donc il part du principe que tu dois être bien en place dans un club pour le faire.
Oui, je te confirme, il a bien été avec. Ouais. En plus, il a été dans le club, tu vois, donc c'est bancal. Mmh. Tant mieux pour Pantaloni, de cas échéance.
Pantaloni se retrouve en Ligue des Champions.
Alors, sur l'expertise sur Pantaloni, moi, je vous renvoie à ce qu'a dit Maxime Chanot dans Génération After. Donc, puisque Max a été entraîné par Pantaloni.
Alors là, celle-là, fallait la sortir, hein. Le Pantaloni, qu'un jour, il sera en Ligue des Champions.
Ouais. Après, Max a dit, Pantaloni, en gros, avec lui, tu vas boire l'apéro, mais en Ligue des Champions, c'est n'importe quoi.
Il faut reconnaître sa super saison à Lorient quand même.
Oui,
fait une très bonne saison.
On a rencontré Génération After. Franchement, c'était une belle rencontre. Hein.
Écoute, non mais je dis que c'est une cote.
C'est vrai que tu n'avais pas signé.
On n'avait jamais pensé.
Ah bah ça c'est sûr.
C'est un peu un truc de fou quand même. Si ça se fait vraiment.
Dans cette Ligue 1 où les entraîneurs partent après un an alors qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, tu peux voir des choses qui sont surprenantes.
Il sera Wolverhampton l'année prochaine. Alexandre, ça te plaît Pantaloni?
Pantaloni, pas spécialement, même si avec Cahuzac, on sait que le taf sera
ça
là.
Ça fait pas un peu Corse
la connexion Corse, elle est là.
Ah oui.
Videra, c'est pareil, hein, y a une connexion Corse parce qu'il a entraîné. Il est entraîné en Corse. Ce que j'aime moins avec Videra, c'est qu'on ferait la même chose que ce que Crystal Palace nous fait. J'aime bien quand même, même si c'est du romantisme, que les contrats soient respectés et que globalement, on n'aille pas emmerder des entraîneurs qui sont en poste dans des clubs, qui font bien le boulot. Je pense que ce serait bien qu'ils repassent.
Ah ouais, mais de la même façon, on dira aux mecs, si les mecs du Mans sont déçus, comment veux-tu qu'ils refusent d'aller jouer à la Ligue des Champions?
Exactement.
Et voilà, c'est tout.
Dur, mais tu parles de Pantaloni, mais Videra, qui est un excellent coach, passé de la N2 à la Ligue 1 à la Ligue des Champions en 3 ans, c'est beau.
Ça serait dingue. Mais non, mais quelque part, c'est un petit peu comme toi. Je sais pas où tu bosses, mais imaginons,
t'es agriculteur, c'est ça, Alexandre?
Je suis éleveur, ouais.
Ouais, bon, on va
pas facile.
On va dire, imagine le mec qui bosse dans un petit resto et on lui propose d'être dans un resto, dans le resto d'un palace. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va y aller. Et avec un salaire doublé ou triplé, tu vas y aller.
Ça dépend ton cadre de vie, ça dépend
Le cadre de vie à 3 fois le salaire, il y a beaucoup de gens qui y vont quand même. Hein. Tu l'améliores, hein, ton cadre de vie. Hein.
Et puis sans insulter aucune Morlan, je pense qu'à Londres, au niveau du cadre de vie, ça va quand même.
Bon Alexandre, bon courage. Merci d'être venu dans l'After.
On est très confiants, hein. Il n'y a pas de problème où Gourlian et les CAF font le travail.
Voilà, c'est ça, il faut que tu dises que le club il est bien tenu, quoi. Tu vois, t'as un DG qui est super, Jean Aparo, t'as Jean-Louis Leca, Gourlian c'est solide derrière, voilà, tout va bien, quoi.
Tout va bien, on n'est pas de presse.
Exactement.
Salut Alexandre, à bientôt.
Ouais, bonne soirée à tous.
Salut. Alors, juste, il y a une info qui vient juste de tomber là, avant qu'on parle de Genesio. Donc, Florentino Pérez a bien annoncé, si je suis réélu, ce sera Mourinho l'entraîneur.
Voilà. Merci Jean-Louis, là, franchement, là, c'est une news. Oula.
C'est une info en plus.
Ouais, on s'en doutait pas.
Ça n'avait pas été dit aussi publiquement.
Juste parenthèse, vous avez vu le nouveau maillot du Real? Avec les bandes rouges.
Il n'est pas blanc?
Non, mais il est blanc avec des grosses bandes rouges, j'ai pas compris. Allez, il n'y a rien qui va au Real pour moi en ce moment. Oui. Eh, c'est important quand un club va bien, les maillots vont bien.
Je rigole jamais avec le textile.
Comme par hasard, le PSG qui gagne la Ligue des Champions avec le maillot Echter.
Comme par les bandes rouges en haut, en fait.
Ouais, c'est ça? Les bandes rouges en haut.
Ils le récupèrent là, ils ne l'ont pas gagné avec.
L'année dernière, ils l'ont gagné la Ligue des Champions avec le maillot Esther.
Enfin, c'est celui de l'année prochaine. Le...
Oui, mais quand même.
Non, mais le vrai. Oui, toi, tu parles du vrai.
Oui, le vrai.
On l'appelle maillot Esther, le dessin, mais c'est pas tout le temps le même.
Oui, tant qu'on a les couleurs, la bande et tout, même si ça fait des années que le bleu est un peu trop foncé à mon goût.
Voilà. Bah là, il ne le sera pas l'année prochaine.
Exactement.
Alors, Genesio, ça s'est accéléré. Aujourd'hui, c'est les infos qu'on a eues, puisque donc l'OM a accéléré sur Genesio, on a fait sa priorité, on parle d'un contrat de 2 ans avec 1 année en option, mais donc toi tu dis, Daniel, c'est pas si simple l'histoire.
Non, je pense qu'effectivement l'accord est trouvé, je pense qu'on est effectivement pas loin, mais c'est pas signé. Et je trouve que ce qui est bizarre aussi, c'est que on n'a pas encore convoqué Habib Bey pour casser son contrat. Je trouve que ça traîne, je comprends pas pourquoi ça traîne comme ça.
Il y a, nos confrères de l'équipe disent ce soir qu'il y a aussi une décision qui peut être liée à la décision de l'UEFA d'exclure ou non Marseille de l'Europa League. Et Genesio veut voir Genesio, d'abord ce qui va se passer à ce niveau-là.
Exactement.
D'ici la fin de la semaine, on saura.
Ça devrait quand même s'arranger cette histoire, je pense. Bon, voilà. C'est juste qu'il faut attendre, mais a priori, les accords sont trouvés.
Ouais. Alors sur Genesio, on va débattre dans une seconde. Est-ce que et on vous attend, supporter marseillais, est-ce que vous croyez en sa réussite vu le contexte économique? On a parlé de ces menaces d'exclusion des coupes d'Europe. Il y a le déficit qui a été creusé. Il y a surtout un Franck McCourt qui ne remet plus forcément au pot. On vous attend au 32-16 et on en débat ensemble dans l'after. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jean-Louis Tour.
22h30, c'est l'after avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, Jimmy Brown et le tennis, Eric Salio,
c'est Berrettini, Arnaldi. Berrettini, là. Ah, malheureusement, je crois que Matteo Berrettini ne va pas pouvoir continuer. Il est mené 7-5, 5-2. Ah, c'est terrible. Il s'est blessé en haut de la cuisse gauche. Il est allé faire un petit tour dans le vestiaire, mais là, il est devant son compatriote. Le public l'encourage à continuer, mais même son clan le dit arrête.
Là, j'ai vu les coachs. Ils lui ont fait
je pense qu'il craint la déchirure là.
Ils ont fait.
Il se dirige quand même vers son banc. Pour l'instant, il n'y a pas d'abandon.
Il n'a pas voulu arrêter.
Pour l'instant, il n'y a pas d'abandon. Mais
il faut qu'il arrête.
C'est suicidaire. C'est
suicidaire. Il y a un garçon qui arrive derrière.
C'est terrible parce que c'était une belle histoire. Il est 104, je crois, la TP.
Il va revenir 50, non?
Ouais, mais là, il est sur sa chaise et non, c'est terrible. Je suis très malheureux pour lui, mais bon, voilà, Matteo Arnaldi va défier.
Il doit être content ceux qui ont des places pour la night. Moi, je connais un mec qui y est ce soir.
Oui, parce que là, on est à combien d'heures de jeu là? on est quand même à 1h58, Daniel. Hein. C'est plus que le match féminin.
On a compté la durée.
Ça se termine dans notre boudin, c'est terrible. Match,
hein. Ça vaut rien, franchement. Franchement, c'est Night Session, ça vaut rien.
Oui, c'est vrai, ça vaut pas grand
chose. Non, mais sérieusement, j'y connais rien, mon tennis en Roland Garros.
Tu la pousses,
Il y a eu des matchs fantastiques.
Non, mais quelle proportion? J'ai l'impression que le soir, à chaque fois, c'est des matchs moyens.
On est loin des Night australiennes ou de l'US Open, faut être sérieux. On est très très loin.
C'est-à-dire qu'à la US Open et en Australie, il y a 2 matchs. Donc t'en as pour ton argent. Là, donc à partir du moment où Prime ne veut qu'un match, tu te retrouves piégé. Voilà.
Et pourquoi ils veulent qu'un match?
Ça c'est une bonne question. On n'a pas la réponse. Mais de toute façon, Amélie ne veut pas faire 2 matchs parce que ça nous emmène trop loin dans la nuit, les métros ferment trop tôt. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne ou pas? Mais là, il est en train de dépasser le temps imparti. Je crois qu'il arrête.
Mais oui,
il a appelé son copain. Il a appelé son copain. Oh là, il est effondré. Voilà, c'est abandon, abandon officiel. Matteo Arnaldi en demi-finale de Roland Garros. Alors ça valait une cote contre son copain Flavio Cobolli. Voilà, c'est la collade entre les deux. C'est terrible. 7-5-5-2, donc abandon. Ce sera le score officiel de ce Italico. Et voilà, je suis triste. C'était la dernière Night Session. Et bien, elle se termine malheureusement.
Ouais.
Bon, très bien. Les gars, on va faire le podcast et puis on va aller au dodo.
Les demi-finales vont être dans quel ordre?
La première, ce sera Zverev Mensik en 1 vendredi, suivi du derby italien.
D'accord.
Très bien. Laquelle, ça te va ou
pas? Et c'est quoi les horaires?
Il a les deux.
13h ou 15h?
Il a les deux, je pense, oui. J'ai pas vérifié les horaires, mais doit être 13h et pas avant 17h, peut-être.
On tient au courant dès qu'on les a. But pour l'Algérie.
Ciao, les gars.
But d'Adjoussa pour l'Algérie, donc face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, figurez-vous que selon un mathématicien, ils sont favoris pour gagner la Coupe du Monde.
Mathématicien qui avait donné les trois derniers vainqueurs, c'est ça?
Ouais. Le mathématicien, il est bon en maths comme moi, quoi.
Non, on te dit qu'il a gagné les trois dernières vainqueurs
de la saison d'Algo. Respecte-le quand même.
À chaque fois.
T'es pas obligé d'insulter les gens comme ça en disant qu'il est aussi bon que toi en maths.
T'as un mec qui disait, il a été bon sur les trois derniers. En fait, c'est mytho. Personne vérifie si vraiment il les a donnés.
Joachim Clement, un mathématicien allemand qui avait prédit les trois derniers vainqueurs du mondial, a vu la victoire des Pays-Bas en 2026. Son système de prédiction est basé sur une série de variables telles que le PIB par habitant de chaque pays. Oui, car cela a un impact sur les infrastructures sportives, la taille de la population, la place que le foot occupe dans la société, la position des sélections nationales au classement mondial, etc. Et pour les demi, il voit donc Portugal-Angleterre et Pays-Bas-Espagne.
Écoute, ouais, je suis complètement d'accord avec ce Clément.
Et je rappelle quand même
ça vaut pas Paul
année,
Le Poul,
je rappelle que cette année en Ligue des Champions, Opta a donné le PSG perdant dès les huitièmes. Ils étaient perdants sur la finale, perdants contre le Bayern, perdants contre Chelsea.
Non, à la fin, ils étaient gagnants. Ça avait changé, non? Tu sais, Gilbert, elle avait dit sur la dernière semaine, ils étaient passés favoris, je crois.
Bon, bref, mais là, c'est pas Opta, là, c'est Clément.
C'est un peu mytho, ces trucs-là.
Ouais, là, c'est un vrai mathématicien, quand même.
Oui, bah, c'est Paul Le Poul, quoi.
C'est Paul Le Poul, c'est un vrai mathématicien, il te dit c'est Paul Le Poul.
Il était bon, Paul Le Poul.
Ouais, ouais.
Bon, Genesio, est-ce que vous croyez en sa réussite vu le contexte économique? Donc on en a parlé là. Est-ce qu'il va pas surtout être là pour rattraper les erreurs du passé? On vous attend, supporter marseillais au 32-16. Daniel, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, déjà, Genesio, il a quand même beaucoup plus réussi. D'ailleurs, j'ai du mal à lui trouver de réels échecs en vrai, parce que. Que l'histoire se termine toujours moyennement, encore que Lille non, mais où il y a des tensions, où il y a un ras-le-bol chez lui, une volonté à un moment de partir, où il se sent mal aimé. Il a souvent ce discours du mal aimé. Donc il y a toujours un moment où ça va un petit peu moins bien, mais si tu prends son bilan global, il est positif. Donc c'est une valeur sûre. J'estime que pour Marseille, c'est une valeur sûre de prendre Genesio. Tu pars pas dans l'inconnu. Il tient un vestiaire. Ses équipes jouent, même parfois très bien. On a eu de très bonnes périodes à Lille, on a eu de très bonnes périodes à Rennes au début.
À Lyon aussi.
Lyon, je me souviens moins de. Enfin, les résultats
à
étaient
l'époque
bons.
Avec.
Non, mais je parle de vraiment de périodes de jeu
où ça jouait bien.
J'ai plus en mémoire les six premiers mois à Rennes ou à Lille où on a vu des très bons matchs. On a eu de très belles performances en Coupe d'Europe. Mm-hmm. On a toujours eu des choses intéressantes qui se sont passées avec Bruno Genesio. Donc, il y a a priori. À part l'inconnu OM qui fait que tu peux jamais réellement te prononcer, mais l'a priori, il est favorable. Il est presque plus favorable que De Zerbi. Parce que De Zerbi, quand il est arrivé, je me souviens qu'on disait ce qu'il a fait à Sassuolo avait de l'allure, ce qu'il a fait à Brighton la première année avait de l'allure, après ça a été un peu plus compliqué, mais il n'avait jamais dirigé de club comme... on va dire qui ont des grandes ambitions.
Ouais, de club de Ligue des Champions.
Alors que Genesio, que ce soit Lyon, même Lille, c'est plus d'ambition que ça.
Mais est-ce qu'on peut faire cette analyse de Genesio sans tenir compte du contexte? Nouvelle direction, nouveau directeur sportif.
Justement, mais je te répète que ce soit par rapport à Habib Bey, que ce soit par rapport à De Zerbi, il y a plus de références chez Genesio. L'a priori, il est beaucoup plus favorable à ce que ça se passe bien.
Et pour aller dans le sens de Daniel, tu peux aussi, par rapport au contexte économique, lui, il connaît. Tu vois, par rapport à ce qui s'est passé à Lille.
Bosser dans la galère.
Bosser dans la galère, c'est exactement ce qu'il a fait au LOSC. Là, il est reparti quand même. Il a fini sur le podium de Ligue 1. Faut rappeler quand même. Tu perds David, tu perds Diakité, tu perds Chevalier, tu perds Zegrova.
Des joueurs quand même.
Comment? Oui, mais avec des petits moyens. Ouais. Ils ont pas investi Lille sous Genesio. Ils ont très peu investi. Ce qui va être le cas à Marseille, puisque tu vas perdre des joueurs forcément. La situation économique du club fait que tu vas perdre des joueurs importants, je pense, d'ici même au 30 juin pour rentrer dans les clous. Au niveau des bilans comptables, mais ça il sait faire et il a l'expérience de la Ligue 1. Moi je pense que c'est un très bon choix de l'OM.
Oui, c'est sûr que de toute façon c'est un choix de sécurité, c'est un choix qui est rassurant aussi pour des dirigeants d'avoir quelqu'un qui Genesio, c'est un peu comme un moteur diesel quoi. Tu sais que tu vas pas pousser très fort, mais par contre tu vas arriver à bon port, tu vas pas consommer beaucoup et surtout tu vas pouvoir faire beaucoup de kilomètres normalement de qualité. Donc moi je comprends tout à fait la nouvelle direction. C'est vrai qu'on pourrait penser a priori que ça va pas avec le côté tempétueux de l'OM. Le tempérament, la grinta, etc. Même si Genesio, il peut quand même, il a montré qu'il avait du caractère. Maintenant, écoute, c'est un peu comme, comme le papy, que tu sais très bien qu'il va faire le job. Et bah, donc,
si le papy, ça va. Tu veux pas
non, je veux dire, pour les, bah, pour les
entraîneurs. On n'est pas sur Giroud dernière
pour les entraîneurs, on n'est pas non plus sur la nouvelle génération.
Oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Donc, on est plus sur un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui sait faire, qui est un excellent coach et qui va montrer que, encore une fois, pour lui, c'est un très, très beau challenge à relever.
On va voir ce qu'en pense Salim qui est avec nous au 32-16. Salut Salim.
Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien.
Salut Salim.
Bah ouais, ça va. On est à la fois sur le choix de Genesio, mais aussi sur le contexte marseillais global, hein, la pression financière, l'histoire de la Coupe d'Europe, tout ça.
Bah déjà, si on parle de la pression financière, moi je suis dégoûté parce que je vous dis la vérité, ça fait à peu près 3 ans que je vous écoute. Je suis pas un ancien auditeur. Mais par contre, tous les jours, je suis branché de 15h à minuit sur RMC. Parce que par rapport à mon temps et tout, je suis tous les jours, comme je travaille à peu près dans ces horaires-là. Et là, il y a un truc qui me gêne énormément, c'est qu'il n'y a personne qui parle de Longoria. Il a mis le club à feu et à sang, il est parti comme un voleur. Là, il est à River Plate, et bien évidemment, parce qu'il faisait qu'acheter des joueurs surpayés chez eux, donc maintenant, il a son travail tranquille. Et il n'y a personne qui parle de lui, mais bon, c'est pas grave.
Bah, c'est vrai quand même que le bilan économique, c'est pour ça que moi je disais, le Genesio va sûrement payer les pots cassés. Quand on voit la courbe du déficit qui explose année après année, c'est sûr que c'est inquiétant.
Avec encore un examen de la situation devant l'UEFA, même si on est plutôt optimiste et que ça, pour que ça se termine bien, oui, à chaque fois il y a des problèmes à l'OM parce qu'à chaque fois on casse un peu trop la tirelire parce qu'en fait, la pression de ce club fait que tu fais de l'investissement au préalable en te disant ça va bien se finir. Et quand tu te retrouves pas en Ligue des Champions, ça c'était pas faute de le dire, on le répétait sans arrêt. Ils ont une telle pression pour aller en Ligue des Champions, tellement ils ont dépensé d'argent, que si jamais ils devaient pas y aller. Et ça après c'est négatif sur le pendant la saison. Hein.
Tu te mets trop la pression,
tu te l'ajoutes en disant on finit à la rue si jamais on n'y va pas. C'est grave si jamais on n'y va pas. Déjà il y a la pression naturelle sportive qui est l'idée que Marseille doit faire top 3. Si en plus on te répète tous les jours c'est le ravin si on n'y va pas.
C'est comme faire un tournoi de poker au-dessus de tes moyens. T'es sûr de mal jouer.
Mais ça aussi, après, c'est à cause de Longoria. En 3-4 ans, il s'est mis dedans tout seul. C'est lui, avec sa politique de si tu changes pas d'argent.
Parce que c'était une course en avant pour sans arrêt être en Ligue des Champions. Après, on peut pas dire. La vérité, c'est que. J'allais dire, il est pas passé loin. C'est vrai que même dans cette saison absolument dingo, quand tu repenses à 2-3 matchs simplement, bah oui, c'est vrai qu'il est pas loin. Il est à deux points d'y retourner, quoi.
Daniel, l'idée
c'est même si ça a été fait parfois en dépit du bon sens, à un moment il y avait du sens.
Mais l'idée d'un dirigeant,
ça s'écroule, quoi, ça s'effrite.
L'idée d'un grand dirigeant, c'est quand même de laisser un héritage.
C'est pas de risquer de cramer la caisse.
C'est pas de tout risquer. Quand tu t'en vas, c'est advienne que pourra, quoi. Il faut gérer un club, je pense, surtout comme l'Olympique de Marseille.
Là-dessus, il s'est barré. Aujourd'hui, il veut plus entendre parler de Marseille. Bon, alors après, lui, il pourrait t'expliquer que la dernière année s'est tellement mal passé, il s'est embrouillé avec tout le monde, avec Benatia, ça s'est fini, ils étaient tout proches, c'est très loin. Enfin, de toute façon, le club, il a explosé. Quand ça explose, tout le monde se tire dessus et c'est fini, quoi.
Et donc, Salim Genesio?
Moi, Genesio, c'est pareil. J'entends beaucoup parler de calme, de tempérament calme. Genesio, moi, en tant qu'observateur du football, je l'ai vu péter un plomb à Lyon quand il était critiqué. Je l'ai vu à Rennes, à un moment donné, il en avait marre.
Là, t'as raison, les critiques, ils supportent pas.
J'ai vu à Lille, pareil, en janvier, à Lille, il voulait partir.
Enfin, il a été quand même très critiqué, faut dire.
Oui, enfin, c'est vrai.
Si deux, trois mauvais matchs, tu sais ce qui va lui tomber, c'est la foudre.
Exactement.
Hein.
Oui, mais maintenant, il a plus d'expérience.
Mais moi, je te dis qu'il va falloir qu'il prenne un contrôle, que d'ailleurs, beaucoup de clubs devraient le faire, et surtout l'OM, contrôle et opposition sur les réseaux sociaux, quoi. Très important. De Zerbi est devenu fou à cause des réseaux.
À cause
de Jérôme Eduga aussi.
Il parle pas français, Desherby.
Non, et du fait que ce soit relayé sur les réseaux aussi.
Il peut pas demander il parle pas français.
Tout est traduit de toute façon.
Voilà.
Bah, après, sinon, moi, sur Genesio, les gars, moi, ces dernières années, sincèrement, quand toi-même affronte une équipe, j'ai plus peur de l'entraîneur qu'on va affronter que du joueur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je savais que je devais jouer une équipe que l'OM devait jouer une équipe de Genesio, j'avais peur. Parce que je sais qu'il est capable à chaque fois de faire des bons coups. On l'a vu contre le Real Madrid l'année dernière avec Lille.
Oui, dans les gros matchs, il est bon, Genesio. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, voilà, après, on va voir si. Après, c'est toujours pareil. Ce que je disais cette année quand j'ai appelé sur Desherby, sur Benatia, ce qui va parler, c'est le terrain.
Ouais.
C'est parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit de Luis Enrique si l'année dernière, il perd au tir au but contre Liverpool et cette année, il perd au tir au but contre Arsenal? C'est toujours pareil, c'est le terrain qui va déterminer si tu es bon ou pas. On verra ce que ça va donner au niveau des résultats.
Merci Salim.
C'est vrai, Salim.
Tu reviens quand tu veux dans l'after. Surtout si t'écoutes RMC de 15h à minuit, t'es le bienvenu.
Ah oui, oui,
il y a la place pour passer normalement entre 15h et minuit.
Pour la Coupe du Monde, du coup, ce sera jusqu'à
5h du mat.
Jusqu'à 5h du mat.
On sera aussi, vous inquiétez pas.
5h à 6h même le week-end parfois. Enfin, vous aurez tous les matchs sur RMC, donc peu importe l'horaire. Salut Salim, à bientôt.
Bonne soirée les gars, merci.
C'est fini. Ça a tenu Daniel. L'Italie a gagné au Luxembourg 1-0.
Grosse victoire, Daniel.
Là, c'est important. Là, on est sur un revirement. C'est fondateur.
Exactement. Voilà,
c'est fondateur.
On se rappellera de cette victoire.
Avec une sacrée compo. Hein. Il y a Donnarumma et sinon que des moins de 20 ans.
Tu rigoles, il y a Coléocho.
Bah, moins de 21 ans.
La perle du PFC.
Coléocho, 21 ans.
La perle du PFC.
Cher Endur, 21 ans.
Excellent joueur, Coléocho.
Il y a pas parlé de ça.
Un joueur qui était au PSG, tu te souviens?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il venait pas de Benfica?
Si, ouais. Absolument. Ouais.
Mais Jean-Louis, tu nous as pas dit si c'est une demande de Didier Deschamps, du coup, de rajeunir l'effectif avant son arrivée.
Ah oui, ouais. Pour préparer son arrivée, ouais. Bah, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent.
Probablement.
Que ce travail soit fait jusqu'à son arrivée.
Non, mais ça y est, c'est fini, ça.
Non, moi, je l'ai lu ce matin dans la Gazzetta.
C'est terminé, ça.
J'ai appelé la Fédé.
Mais je te jure.
J'ai appelé la Fédé.
C'est vrai qu'il y avait un écho dans la Gazzetta.
J'ai appelé la Fédé, c'est.
En page 2. Deschamps.
C'est vrai qu'ils disent comme ça. Deschamps.
Sinon, l'Algérie a donc gagné 1-0 face aux Pays-Bas.
Ah, ça, c'est un résultat, dis donc.
Grosse perf.
Exactement.
J'ai vu Petkovic, il s'est mis en mode Coupe du Monde.
Et vous me disiez, il y a un énorme Lucas Zidane.
Très grosse parade de Lucas Zidane.
Gros look de Petkovic, tu l'as vu.
J'ai vu les petites baskets blanches, là.
Stylé.
Ah, mais il est prêt pour la Coupe du Monde aussi.
Il n'est pas aimé par tous les supporters algériens.
Ouais. Enfin, il y en a qui sont dans le train, ils descendent du train, ils montent du train.
Ah, bah ça, le coup du train, ça.
Mais quoi, il est chauffeur SNCF, Walid?
Ah, bah moi, sa métaphore du train, je sais pas.
Chaque fois, c'est
chef de gare.
Chaque fois qu'il y a un mec qui a le
c'est chef de gare.
Il monte, il descend,
c'est l'omnibus.
J'ai lu un gars sur les réseaux sociaux qui disait en fait, Petkovic, sur la première mi-temps, il a mis tous les mecs pour montrer à tout le monde qu'il ne fallait pas les emmener à la Coupe du Monde. J'ai pas vu exactement de qui il parlait, mais je trouvais ça bonne stratégie.
Ok. Dans une seconde, Lyon doit-il viser plus haut la saison prochaine? On écoutera Mathieu Louis-Jean si vous l'avez raté dans Rotten sans flamme. Il donne 2-3 infos. À tout de suite dans l'after. Ah, j'ai pris de court. Alors qu'il y avait un chrono quand même. Je sais pas pourquoi je vous ai pris de court alors que ça fait 3 minutes qu'on doit partir en pub. Allez, à tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jean-Louis Tour.
22h48, c'est l'after avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et Jimmy Brown. Alors, avant de parler d'équipe de France, avant de parler du Mans, on va donc s'intéresser à Lyon, puisque Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif, était dans Rotten sans flamme aujourd'hui. Il était dans l'after il y a quelques mois maintenant, et il a donné 2-3 petites infos, 2-3 pistes également sur la suite. Donc déjà, le dossier entraîneur, c'est limpide, il veut continuer avec Fonseca.
Alors, on discute avec Paolo, bien sûr. Je pense que Paolo est dans un bon moment. Il est aussi dans un endroit qu'il apprécie, je pense. Et il travaille avec les personnes qui lui correspondent aussi. On est très heureux de la façon que ça se passe avec Paolo. C'est des questions qui vont se poser naturellement dans les prochaines semaines. Mais il n'y a pas de pression. On n'essaie pas de mettre de la pression sur Paolo. On ne veut pas s'en mettre non plus. Mais en tout cas, bien sûr qu'on veut continuer avec Paolo.
Voilà. Bon, rien de...
Tu as réussi à dire 8 fois Paolo en 40 secondes.
C'est vrai. Bon, rien d'étonnant.
Rien à signaler.
Même s'il rate toutes ses fins de saison, Fonseca.
Rien à signaler, tout va bien. C'est normal qu'il reste.
Voilà. Sur l'effectif, là aussi, il dit plusieurs choses. Déjà sur Hendrick, bon, il dit a priori à l'instant T, je dis non, il reviendra pas à Lyon, c'est impossible. Maintenant, souvent, Hendrick parle de Dieu, alors on verra par la suite.
Parle de quoi ?
De Dieu.
Et quel rapport ?
Je sais pas, on sait jamais.
En vrai, tu fais un miracle, quoi.
Voilà, un miracle.
Si tu te qualifies pour la phase de poule de Ligue des Champions, si le Real y recrute encore, qu'il voit que c'est bouché, la facilité, ouais.
Le Real va recruter.
Donc.
Après, il y a la Coupe du Monde. Imagine que Hendrick mette une poignée de buts, que d'un coup, il révèle son talent, le Real va dire, bon, bah, tu viens chez nous maintenant et tu bouges plus.
Ce qu'il veut dire, c'est que si le destin le ramène à Lyon, si Dieu le veut.
Donc, c'est une décision qui se décidera plutôt début septembre, fin août. Quoi.
Fin août, ouais.
Une fois que tu sais si tu vas en Ligue des Champions et que, voilà.
C'est ça. Sur le reste de l'effectif, bon, il dit que Morton notamment, il veut le garder absolument, mais il a dit que il fallait absolument réussir à vendre deux joueurs. Il l'a expliqué chez Jérôme.
On était la saison dernière, voilà où on en est aujourd'hui. C'est une vraie avancée. J'ai lu les derniers jours que voilà, au niveau de l'UEFA, on est quand même dans une position beaucoup plus favorable. Mais bien sûr qu'on va devoir vendre. On n'a pas le choix. Je pense pas qu'il y ait une équipe en France, à part le PSG, qui va pas avoir des besoins de vente. Donc, on l'a travaillé. On a une stratégie. On a planifié. On veut maîtriser ce qu'on veut faire. On veut garder un vrai équilibre, une stabilité dans l'équipe. Donc, bien sûr que nos meilleurs joueurs, le corps de l'équipe, on va la garder. Maintenant, bien sûr qu'on a des objectifs de vente. Parce que aussi, on a un contrat et un plan avec l'UEFA et la DNCG.
Voilà. Et donc, il a parlé de deux joueurs.
Ouais, mais il faut arrêter de parler de noms. Parce que rappelle-toi ce qui s'est passé l'année dernière.
Oui, surtout pas, même, t'as
entre
raison.
Entre Nico Tadze et
Fofana.
Et Malik Fofana. On préfère lui, on préfère lui. Et puis à l'arrivée, c'était pas on préfère, on fait ce qu'on peut. Donc de toute façon, bah, tout l'argent des droits télé qui n'est pas rentré, t'es obligé de le compenser par de la vente de joueurs en plus de ce que déjà tu devais vendre. Et comme en plus ils ont un trou dans la caisse, que ce soit deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, c'est en fait, ça dépendra de ce qui a rentré en vrai. Et tu peux pas identifier un joueur. Il peut pas dire lui, je veux absolument le garder et lui, parce qu'en fait, ça va dépendre du marché.
Mais, si mais je
marché...
te rejoins, Daniel, mais le paradoxe, c'est qu'il dit en même temps chez Jérôme, il dit Niakate, il peut pas bouger, c'est le Tolisso de la défense. Tolisso, il peut pas bouger. Moi aussi, je peux pas y croire. À un moment donné, qui tu sors? Si tu dis Fofana, Nouama, il reste, Tolisso, il reste, Morten, il reste, et Niakate, il reste.
C'est la meilleure stratégie de dire que tout le monde est
un c'est même pas eux qu'on choisit. Parce que quand Fofana a dit, parce que c'est lui qui devait partir, quand il a dit non, moi pour ma carrière, rapport 1, je partirai pas cette année, c'est là qu'ils ont dit bon, bah ok, bah Miko Tadze qui devait pas partir, c'est lui
qui voulait pas partir.
En plus. Donc, et ça, il n'y a pas de je choisis. Non, c'est fait. Le marché décidera en fait pour Lyon. Et si le marché donne 30 millions sur un gars et que ça permet justement d'en garder deux de plus plutôt que de faire 15-15-30, ben ils vendront. C'est
sûr
tout.
Qu'aujourd'hui, dans
le en Ligue 1, tu retiens personne.
C'est la conjoncture et l'offre et la demande qui va faire que tu puisses garder un tel ou un tel. Mais aujourd'hui, on trouve quand même normal qu'un directeur sportif de Ligue 1 dise bon, bah nous, on a un contrat avec la DNCG et l'UEFA. C'est un contrat avec eux, quoi. C'est eux nos patrons.
Ouais, après, si on oublie d'où ils viennent, Kevin, ouais, mais ils étaient quasiment.
Quand même, ils auraient dit ça il y a 3 ans.
Ils sont sous surveillance, quoi.
Bah, bah, eux plus que les autres, bien sûr. D'où ils viennent.
Michel R, il est directeur sportif de quasi tous les clubs.
Le patron, le Mozart du football de la français, finance, là. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe.
Le français va bien et un an après.
Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans les divisions inférieures.
Le français est tiré d'affaire.
Ouais.
Michel R, deux points, ouvrez les guillemets. Le français est tiré d'affaire.
Ouais.
Okay,
en fait, il tirait d'affaire parce que maintenant, c'est lui le patron.
On comprend pourquoi il est ami avec Vincent Labrune. Ils ont des bonnes
même
analyses.
Si, même
quoi.
Si je dois dire
voit attends, dans le calendrier, c'était quand le tirait d'affaire?
Ah bah c'était avant... un an avant que, ah oui. Qu'il n'y ait plus de droit télé.
Ah oui, c'est ça.
Même si quand même, quand tu vas à la DNCG, on peut dire, Daniel, que c'est quand même des gens qui t'accompagnent et ne sont pas là juste là pour sanctionner. Hein.
Moi, j'y ai... c'est la casquette du directeur.
Ah, toi, tu veux que quand t'arrives, tu veux qu'ils te mettent des coups de genoux.
Laisse-le, à tout moment, il peut descendre à N3, laisse-le, dire du bien.
Évidemment qu'ils vont t'aider, ils ne vont pas te finir sur le trottoir, Kevin.
Pour nos auditeurs qui ne savent pas qu'on sourit un peu.
Non, mais là, il a peur parce que de tailler Michel R, parce qu'il a peur pour Saint-Maur.
Il est formidable.
Et puis alors Louis-Jean a parlé des deux potentiels arrivés, donc Mats Bidstrup et Kyle Boudache, donc Boudache on le connaît de Nice, qui est fin de contrat, donc on travaille dessus, il a dit. Et puis donc Bidstrup, on cherche un milieu dans son profil. Donc voilà.
Ouais, tu vas te marrer quand tu vas commenter les matchs
Bidstrup,
de Lyon.
Ouais,
c'est
oh, ça va aller quand même. Ça va, on a fait plus
compter. Quel prénom?
Mats.
Mats, ça va.
Mats Bidstrup.
Non mais Boudache, c'est super cool quand même.
J'espère qu'il met Boudache, c'est pas mal.
Tu prends Bidstrup pour Schulz, c'est compliqué quand même.
Non, c'est vrai. Bah, après, on s'est remis de Goratzkelia. Voilà.
Mais bon, il y a un rugbyman personne ne le dit comme il faut. T'as entendu le rugbyman du club, je sais plus c'est Bordeaux, qui disait que un rugbyman donc géorgien qui disait que c'est,
ah,
c'est
oui,
pas
oui.
comme on le dit.
Oui oui, c'est pas ça.
Varaskelia.
Oui oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, on va pas trop exagérer non plus. Non, mais toutes les prononciations, si on les fait exactement dans la prononciation du pays, il y en a
beaucoup qui passent. Moi, l'année prochaine, je me réserve uniquement sur Flipluche. Ça, j'ai décidé que lui, je le ferai bien toute l'année.
Flipluche.
Je le ferai en VO toute l'année.
Et c'est crédible en plus.
Est-ce que c'est vraiment bien fait en plus?
Non, c'est pas bon. Ah, c'est Flipluche.
Flipluche.
Ouais, c'est pas mal là.
Enfin, j'ai pas compris de qui il parlait au début. J'entendais Flipluche. Je vois pas le délire.
Ah, c'est bon, on l'a.
C'est un dessert alsacien de truc.
C'est ça. Et je vous ai parlé de Tolisso ou pas? J'ai un doute là.
Non, on n'a pas parlé.
Alors, Tolisso, donc.
Intransférable.
Bah oui, il a dit intransférable.
Oui, mais lui, il sera pas.
Il rayonne.
Il sera pas demandé, c'est le patron de l'équipe. Et
il discute
avec l'Arabie Saoudite. Ça pourrait pas être intéressant.
Je pense qu'il va prolonger plutôt.
Il va rester coco.
Voilà. Plus, il a retrouvé l'équipe de France grâce à Lyon et tout. Donc,
ouais, c'est vrai. Voilà.
Pas tes meilleurs, ça, Toby. Pas tes meilleurs. Pas beau, pas beau.
Non, mais bon, bah non, mais parce qu'on en parle à chaque fois, on est tous tristes.
Oui, mais là, c'est un peu comme ça. Maintenant, ah, il n'y a plus besoin d'en parler. Là.
Les Bleus, c'est dans une seconde. Avec la fameuse réponse de l'after à Emmanuel Macron, hein, qui a quand même
parlé de teaser ça. Déjà, c'est.
Bah quoi ?
Ça fait trois jours.
C'est vrai.
Ça fait trois jours. On attend que ça.
Que, ouais, okay.
Bah, c'est que le président, du coup, écoute RMC depuis trois jours.
C'est le lendemain de victoire historique pour le sport français en Ligue des Champions. Et le chef de l'État a rien trouvé de mieux que de parler d'une émission de radio. Enfin, excuse-moi. Sans la nommer.
On sait bien que tout le monde écoute l'after. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le président a le droit de se tromper. En même temps, ça fait pas mal d'années qu'il se trompe. Hein.
Non, mais ça fait une petite sortie un peu populaire, une fois de plus.
Pas surtout.
Quoi, tu passes avec Macron aussi dans le jour.
Kevin, les faillotages là, c'est
non, il est en contrôle fiscal ou je sais pas.
Non, pas du tout.
Allez, les Bleus aussi dans une seconde avec les infos veille de match. Et après, tout sur Le Mans. Le futur projet qui va dominer le foot français.
Le futur, on est dedans, c'est pas le futur, c'est le présent.
Va dominer le foot français, c'est pas maintenant quand même.
Doucement quand même.
À tout de suite.
RMC. Et justement pour ça, je présente vraiment toutes mes excuses à tous les Marseillais.
J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste.
Le PSG ne s'excuse pas, monsieur. Le PSG ne s'excuse pas, il n'a pas besoin de s'excuser.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse.
J'ai fait une grosse connerie. Je suis là pour m'excuser.
Je dois juste dire à notre supporter, excuse.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et Jimmy Brown. Avant de parler de l'avenir, de l'évolution du projet Manceau, avec notre invité Aymeric Magne, qui est actionnaire et membre du CA du Mans, qui va tout nous raconter d'ici quelques minutes. On va parler de l'équipe de France. Et j'ai une info quand même qui vient de tomber. Encore une, après Florentino Pérez et Mourinho. puisque Angers vient de communiquer et d'annoncer le départ d'Alexandre Dujeu, son entraîneur. Voilà. Donc Dujeu a fait part à la direction de son souhait d'arrêter avec l'équipe professionnelle. Donc le club prend acte.
Qui était un nom évoqué à Nice.
J'allais dire, il a peut-être déjà son point de chute. Reste.
Est-ce qu'on peut penser qu'il a Dujeu
sur le point devant
en partant ?
Et peut-être également dans la liste à réfléchir pour Lens aussi.
Ça pourrait.
T'as vite quand même maintenant.
Oui.
Il y a peut-être une étape intermédiaire, non, avant Lens.
Oui.
Marc, on a eu la discussion avec Pantaloni, ça va être la même chose. Donc.
Il n'y a plus d'étape intermédiaire dans le football français.
Bon, très bien. Voilà pour Dujeu. Mm-hmm. Les Bleus, tout de suite, donc demain, France-Côte d'Ivoire, à Nantes, bien sûr, ce sera en intégralité sur RMC.
Dujeu a été l'adjoint de Pantaloni, c'est pour la petite.
Pour finir l'histoire ?
Pour finir l'histoire.
On est complet, c'est très bien. La fameuse réponse de l'after à Macron. C'est le moment. Donc on est lendemain de la victoire en Ligue des Champions du PSG. Les joueurs font le Champ de Mars, ensuite l'Elysée. Grand discours d'Emmanuel Macron, écrit au cordeau, chaque mot est pesé, etc. Et là, il sort ça, le président de la République.
Et moi, je n'oublie pas tous les experts du foot qui expliquaient que c'était terrible quand Luis Enrique est arrivé. Tout ce qui allait mal faire, tout ce qui allait mal se passer, les doutes. On a vu hier un coach hyper concentré, qui n'a jamais lâché, qui a été un chef d'orchestre extraordinaire. C'est la meilleure réponse à toutes les critiques, ces deux étoiles.
Bon, très bien. Un coach hyper concentré.
Est-ce que tu penses qu'il se mettait lui-même dedans ? Il disait, les gens qui me critiquent, moi, ils verront.
Ah, tu crois que ça va jusque-là ?
Ah, il se met un petit peu. Alors,
lui, les deux étoiles, on les cherche, par contre.
Alors, après,
il parlait de toi, surtout.
Il n'est pas vraiment bien informé, parce que, en fait, quand il est arrivé, j'étais plutôt positif. C'est après. Mm-hmm. C'est début de saison 2024 où je suis le plus dur avec Luis Enrique. Donc il est moins dans le truc au début, bien, après très critique, et après quand il a fini par faire ce que je disais, tout s'est correctement passé.
C'est incroyable de dire ça.
Bah il a pas changé sa com.
On va pas en parler.
Bah il a changé sa com ou pas ?
Finis ton argument.
Tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'il a changé sa com ?
Il a peut-être un peu adapté et appris le français.
Voilà. Mais il a changé sa com.
Un peu, mais
la façon qu'il avait de parler, il a arrêté.
Il reste des fois agacé ces dernières semaines. Il a envoyé 2-3 pics.
Il a quand même changé ça, comme.
Ouais, mais il est un peu
raconté,
des fois.
J'ai raconté 1000 fois que après un rendez-vous que moi j'ai eu avec la direction de la com à l'époque avec le PSG, je leur ai dit est-ce que vous pensez que c'est obligatoire pour notre club d'avoir quelqu'un qui parle aussi mal aux journalistes et qui se comporte de cette façon ? Est-ce qu'on est obligé ? On n'est pas obligé. C'est un type qui peut faire autrement. Et on m'a répondu oui, et on lui dit. J'ai noté qu'après, ça s'est passé différemment. Après, si tu veux pas me croire, mais je pense que tu me crois parce que tu me connais. Donc voilà.
Bon, après, il y a des trucs quand même.
Le dire comme n'est plus là, c'est celui qui est parti.
Oui. Qui bossait dans un journal. auparavant.
Exactement. Et c'était en, c'était après l'épisode.
Quand tout allait mieux, quoi.
Non, c'était quand je l'ai vu, c'est après l'épisode avec comment ça s'appelle,
avec Margot, la journaliste
Margot Dumont.
Voilà.
Bon, ça c'est pour la com. Après pour le reste, il y a aussi un truc, c'est je veux dire, on a l'impression toujours qu'on passe, on passe pas toujours des concours quand on donne des avis. Tu vois,
bien sûr,
et on n'est pas là à vérifier des bonnes notes, des mauvaises notes derrière, tu vois. Parce que non, mais c'est ça qui transpire de sa façon de penser,
oui,
de sa
mais
façon
c'est pour ça,
de parler.
En fait, il fait un lien avec la politique sur.
Moi, je pense qu'il fait un peu de démagogie.
Oui, voilà,
c'est un truc facile à dire.
Machin, voilà, il était. Mais en fait, tous les entraîneurs, Deschamps, on a critiqué. Ouais. Quel entraîneur n'a pas été critiqué?
Ah,
tout
oui.
le monde.
Ça et toutes les fois où on a critiqué,
ça se passe pas bien. Tu le dis, moi, au moment où ça se passait pas bien, que je sache. Après, ça se passe bien, tu constates pourquoi ça se passe bien. Après, tu peux être un idée. Idéologue et penser par exemple, moi je ne l'ai été qu'une seule fois, c'était Bielsa. Ah, vraiment, moi j'avais une espèce de passion pour ce mec-là. Ah, même quand ça se passait moins bien, j'avais du mal à le voir. Mais globalement, je ne le suis pas, donc je suis en fonction de ce qui se passe. Après, que le supporter lui soit fidèle tout le temps et dise non, il est pas nul, ça va bien se passer,
Il y avait des consultants aussi quand même qui pensaient que ça pouvait bien finir.
Oui, mais toi, t'es un idéologue.
Non, je suis pas un idéologue.
Si, pourquoi
non.
Mais enfin, quel, il y a pas, c'est pas une insulte.
Mais tu sais,
hein.
Non, mais
c'est pas une insulte. T'as le droit d'aimer quelqu'un.
C'est en aucun cas une insulte et je ne le prends pas ainsi.
T'as le droit d'aimer quelqu'un coûte que coûte.
Mais
parce
avant,
que moi, je te le dis, ça m'est arrivé sur plein de mecs.
Non, mais même quand toi, il t'agaçait, moi, je pense que ce qui t'agaçait, c'était OK, les inventions, OK.
Ah oui.
OK.
Et après, elles se sont arrêtées comme par hasard.
Oui, mais pour moi, n'importe quel savant, avant de réussir, eh ben, il a des échecs.
Eh ben, y a pas de.
Et encore, si on considère qu'une demi-finale de Ligue des Champions perdue après avoir mis 5 poteaux sur l'aller-retour, c'est vraiment un échec.
Oui.
Mais en l'occurrence, ce n'était pas mon cas.
Mais moi, je n'oublierai pas que le savant dont tu parles, le club, à un moment, en décembre.
Oui, mais c'est pas grave ça. Les gens peuvent douter.
Oui, mais Kevin, quand le club dit si nous ne sortons pas de la phase de poule, ce ne sera pas un drame.
C'est pas la première fois.
Ça veut pas dire
un drame, ok.
Je pense qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde est dans le doute. Je pense que tout le monde.
Alors tout le monde est certain que ça va finir par payer.
Et que le savant, ou d'un coup, sur un match qui bascule à la 55e, d'un coup, tout se met en ordre. Écoute,
non mais je suis d'accord là-dessus, Daniel.
Je pense
mais
qu'à un moment il y a d'autres décisions qui sont prises.
C'est l'histoire
et des décisions qui deviennent excellentes, alors que avant elles n'étaient pas bonnes.
Mais maintenant, ok, je te réponds.
Mais là, excusez-moi. Donc refaites le débat de Luis Enrique. Alors que c'est pas vraiment ça. C'est plus la perception
du
débat.
C'est la perception, les critiques.
Oui, mais le truc c'est que moi ce qui me choque c'est qu'en fait il y a eu un grand débat d'idées à un moment où il pouvait y avoir un débat d'idées. Il y avait des pour, il y avait des contre, etc. Et c'est pas parce que maintenant Luis Enrique a gagné que les gens qui le critiquaient à l'époque avaient tort et doivent être blâmés.
Et pourquoi Deschamps qui gagne la Coupe du Monde, qui était critiqué, ouais. même en vainqueur, même toi, j'aime pas son jeu et tout, on pourrait te prendre pour un fou de la même façon. Pourtant, t'argumentes et tu dis j'aime pas pour ceci, pour cela.
Mais moi je te prends pas.
Sauf que
moi, je te prends pas. En aucun cas pour un fou.
Hein?
Je te prends en aucun cas pour un fou.
Je n'ai pas dit que tu me prenais pour un fou. Je dis qu'il y a des cas où ça passe différemment. Il y a des coachs qui, même quand ils gagnent, on peut les critiquer. Mais parce qu'il suscite un intérêt qui frise le côté un peu passionnariat, idéologie. Voilà. Mais moi,
quand tu dis que le club.
Deschamps, il gagne, on a le droit de le critiquer. Simeone, il gagnait avec ses peu de moyens et tout, c'était affreux et tout. Arteta, il gagnait avec Arsenal, puisque ça se joue qu'au péno. Bah, je pense qu'il aurait été critiqué. Quelle équipe dégueulasse.
C'est tout. Non, mais là où
c'est
pas là où je suis pas d'accord.
Ça prenne des proportions au point qu'un président de la République vient de dire, tous ceux qui l'ont critiqué et tout. En plus, oui, il y en avait beaucoup. Il n'y avait pas que moi, même si moi j'étais peut-être le plus en première ligne. Et alors donc? Mais
moi,
ça flatte énormément.
Moi, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, en fait, Emmanuel Macron, il est comme n'importe quel mec sur Twitter. Et il voit les vidéos qui remontent en permanence. Et on a l'impression qu'effectivement, il y avait tout un tas de critiques, alors qu'il y a eu quelques émissions où c'est pas.
Où son conseiller
capitaine. Oui, c'est ça, autour de lui.
Mais juste, moi, ce qui m'intéresse pour recentrer un petit peu le débat, c'est l'empressement.
Je ne l'ai pas recentré, là.
Non, mais juste sur Emmanuel Macron, le truc fou, c'est. Tu regardes la vidéo, tu regardes même Luis Enrique pendant qu'il parle, peut-être pas sur cette. Il lève les yeux au ciel, à un moment donné, il dit mais en fait qu'est-ce qui. D'où c'est quoi son rôle en
parce
fait
parce que la vérité c'est que Luis Enrique il s'en fout.
Il n'a rien à
suivre.
Parce que lui,
il est dans un autre mode de communication qu'il a initié depuis l'époque Twitch et tout ça. En fait il s'en fout de ça. Et si dans son doc il met une première phrase de l'after pour commencer, c'est que lui il se nourrit de ça.
Il est limite.
Il le savait qu'il était fracassé à ce moment-là, puisque même au club on lui disait dis donc on comprend pas trop comment ça se passe et tout ça, qu'est-ce que tu fais. Mais lui il était droit dans sa ligne et il voyait où il voulait aller. Mais c'est très bien, parfait. Mais sauf que t'as le droit de dire à ce moment-là il y avait beaucoup de
défenseur du PSG, il dit pardon, on comprend pas ce qui se passe.
Et je pense que sur la séquence, Lucien Riquet, il est gêné qu'il l'utilise un peu à des fins politiques.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, si tu vois, si tu continues la séquence deux jours plus tard, il est à Clairefontaine, il y a la photo, et il vient te choper Kylian Mbappé comme ça pour lui dire viens te mettre à côté de moi.
Dans la photo,
l'enchaînement des deux, c'est un peu beaucoup quand même.
Viens à côté de moi parce que je suis le boss. Je sais pas, je disais tout à l'heure ça, plus le truc de la housse Mbappé, homme politique potentiel ou machin, la politique par le sport.
Non, le vrai. De toute façon, on a vécu trois jours de récupération politique, que ce soit de Macron de cette façon, que ce soit des extrêmes sur ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Ça a été trois jours, on se sert du foot pour se faire de la pub en politique. Hein. Tu voulais dire un truc, Kevin ?
Non, j'allais dire que le pire, c'est que c'est maladroit, en fait, parce que je pense que Luis Enrique ou que Kylian Mbappé ne veulent pas ce genre de.
Mais tu leur rends pas service, bien sûr, tu leur rends pas service.
Et là, c'est peut-être, les politiques qui admirent forcément les grands sportifs et qui veulent les défendre sans le faire comme il faut.
D'accord, qu'on s'est tous dit sur le discours de Macron que ça pouvait être un discours tapé par Flo Gautreau sur IA, comme la semaine dernière. Ça sonnait de la même façon. Bon, alors, le match des Bleus. On avance. Le match des Bleus contre la Côte d'Ivoire. Donc, on a une compo probable pour le match de demain. Donc, vous la voulez? On y va. Maignan dans les buts. Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez. Ça ressemble à la défense qui débutera la Coupe du Monde en ajoutant Saliba. D'ailleurs, Deschamps était rassurant
Théo
sur Saliba.
Hernandez, hein.
Oui, Théo Hernandez. Oui, parce que les Parisiens sont pas concernés par le 11 de départ, hein, parce qu'ils sont arrivés un peu plus tard. Donc, William va bien, il va être géré. S'il avait fallu jouer demain, il aurait joué.
Mais je l'ai dit qu'il allait bien, je l'ai dit avant-hier.
Donc tout va bien. Oui, mais alors,
c'est marrant.
Je te fais une grande confiance, mais je me dis juste que Deschamps.
Depuis que j'ai mon cabinet médical,
tu as raison, j'ai fait une erreur.
Sur les diagnostics équipe de France, il est injouable. Autant parfois en club, ça peut être bancal. Dès qu'il s'agit des Bleus, il est injouable.
C'est vrai. Non, mais t'as raison, j'ai bêtement cru Deschamps et son staff, alors que tu l'avais dit. C'est mieux.
N'oublie jamais que dans un tribunal, devant un juge, il y avait Francky Le Gall et moi.
Je sais, j'étais là.
Qui a eu raison dans cette histoire? Moi.
Voilà. C'est ce que la justice a dit.
C'est voilà.
Bien sûr. Mais t'as raison, Jimmy, surtout en période de Coupe du Monde.
Bien sûr, il a un doigt. Là, c'est.
Le gars, il a retourné les
épaules. Il pourrait opérer un mec.
Il est docteur de l'équipe.
Il pourrait opérer un mec.
On n'a pas d'appel sur cette histoire. Non. Il n'y a pas eu de nouvelles.
Non, sur cette partie-là, s'il n'y a rien pour.
C'est fini. Ah, rien de pour bouger. Très bien. Non. Donc, j'étais sur ma défense. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot. Et le quatuor offensif, donc Olise, Cherki, Thuram et Mbappé. Donc. Parce que
on est quasi dans une équipe type.
Il manque les Parisiens.
Oui.
Dembélé doué peut-être. Doué, peut-être le quatrième offensif.
Doué, c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Hein.
Non, c'est vrai.
Je le donne pas titulaire certain. Au contraire de Dembélé.
Thuram, il part titulaire, tu penses?
Non.
Bah et donc.
Non, c'est-à-dire qu'il y aura une incertitude.
Remplacé par Dembélé.
Tu mets Cherki titulaire toi? Moi j'adorerais, mais je pense pas.
C'est une indication qui est intéressante à voir.
En tout cas, le quatrième homme,
c'est Dembélé. Oui, a priori, ce serait peut-être Olise derrière, mais le débat se posera dès qu'on en arrivera et qu'on sera aux États-Unis. L'idée d'aller faire jouer des mecs dans des positions différentes de celles qu'ils occupent en club, alors que t'es pas complètement obligé de le faire si tu prends réellement sur le papier les joueurs, je comprends pas pourquoi se casser la tête à faire un truc pareil. Et c'est tellement simple. Mais après, peut-être qu'on aura une théorie laboratoire et là, Kevin nous présente. Mais je trouve que ça sert à rien le laboratoire parfois. Quand les choses peuvent être simples, autant faire simple.
Sur l'association Cherki-Mbappé, c'est Younes Belanda qui disait dans Génération After tout à l'heure qu'il n'imaginait pas les voir associés au départ pour des questions d'équilibre d'équipe. Ces deux joueurs qui sont peut-être un peu plus avares d'efforts défensifs que les autres et il s'imagine mal les voir démarrer les deux. On verra.
Bon, moi j'aimerais que les mecs occupent les places qu'ils ont en club. Donc Olise à droite.
Olise à droite, mais Dembélé
dans l'axe, c'est que le seul qu'on déplace par rapport à ce qu'il fait, c'est Mbappé, sauf qu'on retrouve sa position préférentielle de quand il a été fort.
Non, mais ce sera pas le cas.
Mais je te dis pas que ce sera le cas.
Trois seulement. Pas avec quatre offensives.
Non, donc pourquoi pas avec un mec derrière, si ça doit être un mec derrière.
Doué peut très bien faire le numéro 10.
Cherki, c'est ce qu'il fait, globalement, c'est là où il est le meilleur. Donc, utilise les mecs dans les positions qui sont les meilleures pour eux. Ouais, ça paraît logique.
Ça n'arrivera pas.
Des fois, le foot est simple, demande à Kevin.
Après, attention, parce que le
foot. Avec Deschamps, c'est pas tout le temps simple.
Le foot n'est jamais simple. Le foot est toujours complexe.
J'adore mettre en point comme ça. C'est le rêve.
Oui, les gens n'ont pas vu à la radio, mais il a tendu le doigt.
Non, mais j'allais dire que, attention quand même, parce que tu vas jouer contre le Sénégal, qui est un gros milieu terrain. Donc, avec tes quatre offensifs, si tu mets Cherki et Mbappé, tu peux quand même, des fois, te prendre des phases de transition.
Les
très rapides.
Du Sénégal, ils peuvent te mettre une grosse intensité.
Voilà.
C'est ça. Ce sera le premier match le 16. Et puis, alors, il y a une petite réponse de Koundé sur le statut de favori. Vous en avez parlé lundi. T'en as parlé d'ailleurs, Daniel, parce que t'aimais bien comment Deschamps a un peu recadré les choses. Ouais. On peut l'écouter, Koundé, et vous me dites si niveau com, c'est bon, s'il a passé l'oral.
Ça, je vous le laisse. C'est des choses que vous aimez bien faire.
Est-ce qu'on est dans le top 3 des favoris?
Vraiment des choses auxquelles on fait attention. Après, bien évidemment, on sait que on est une équipe avec de la qualité et qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un des favoris. Après, c'est comme je l'ai dit, on est conscient de l'équipe qu'on a et on a aussi beaucoup d'ambition. Mais il faut aborder les choses chaque nouvelle compétition avec beaucoup d'humilité parce que on sait à quel point c'est difficile d'aller loin dans les compétitions. Et même si on a encore une fois une très bonne équipe, il y a aussi plein de bonnes équipes en face. On y va vraiment pas à pas.
Voilà. Il veut pas faire la petite.
C'est vraiment utile d'entendre ça. Là.
Non, mais c'est pour savoir s'il maîtrise la com là.
Koundé, mais là, waouh.
Au début, la question c'est
ChatGPT là.
Est-ce qu'on est dans le top 3 des favoris? Et là, il veut pas y aller. Il veut pas qu'il y ait une la petite phrase reprise.
Ce qu'il veut. Voilà. Comme de toute façon, il l'a dit très clairement. C'est un boulot pour vous. Donc nous, dans notre analyse, au vu de l'effectif, de ce que font les mecs en club, de qui ils sont. Bah évidemment qu'on moi je mets pas top 3, je mets top 5. Pour moi je détache 5 équipes. Après t'as tous les aléas de la Coupe du monde, une blessure, un match qui tourne pas bien, un carton rouge au mauvais moment,
top 5,
mais
oui.
Mais l'équipe de France
est
largement
dans un top 3. Si c'est la France, ils sont pas dans les 3, qui est dans les 3?
Je veux dire top 5.
Si tu dois en dégager 3, tu es bien sûr que la France est dans les 3.
Mais il n'est pas question de se mouiller ou pas, t'as des équipes qui ont beaucoup de bons joueurs, que tu parles de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Angleterre, c'est des ou de l'Argentine, c'est que des mecs qui jouent dans des grands clubs. T'es obligé, voilà, pour moi, c'est un groupe, il y a un groupe de favoris. Après, moi, je me fous de savoir s'il est un favori 1 ou favori 2 ou favori 3. Je suis pas bookmaker non plus, hein.
Pour les bookmakers, c'est Espagne et France.
Voilà. On est dans le top 2.
On voit
top
Jimmy maîtrise.
Oui, ça, c'est son truc.
Voilà. Les paris.
Oui.
Bah, c'est le seul ici. Dans une seconde, Aymeric Magne avec nous, donc, pour parler du Mans, dans l'after. Si vous êtes supporter du Mans, on vous attend au 32-16.
Personne n'aura manqué aujourd'hui la décision du CA de la Ligue. Je sais que c'est des sujets qui intéressent notre invité.
Quel dirigeant peut passer dans l'after sans penser qu'il aura une question sur la gouvernance? Voilà.
Mais parce que je sais que ça l'intéresse.
Allez, à tout de suite.
En plus, maintenant, il est en Ligue 1.
Ouais. Bien sûr. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jean-Louis Tour.
23h17, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz et avec Jimmy Brown. Et on va donc parler de ce projet Manso avec notre invité, puisque Aymeric Magne est en direct dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes, je vous disais, le représentant de l'actionnaire. Vous êtes membre du conseil d'administration également, actionnaire aussi donc du club du Mans qui monte en Ligue 1. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre rôle? Comment ça fonctionne donc, avec en plus le président qui est en place? Comment ça s'organise?
Donc en fait, le groupe qui a racheté le club s'appelle Hautefil. Oui. Hautefil, c'est un fonds d'investissement. C'est pas un gros mot, on pourra revenir tout à l'heure. Et mon rôle, c'est de représenter l'actionnaire, c'est-à-dire de faire passer la vision auprès du président des actionnaires. Et auprès des actionnaires, de leur faire comprendre le marché français, qui est différent des autres marchés. D'où je tiens ça, c'est qu'en fait, j'ai travaillé avant chez Colony Capital et chez City Football Group. J'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses moins bien. Et je trouve qu'accompagner un actionnaire, c'est intéressant, puisque le rôle d'un président, c'est de gérer le club. C'est pas forcément de passer 50% de son temps à discuter avec ses actionnaires, ce qui était mon cas quand j'étais chez City Football Group.
Okay. Okay. Qui sont concrètement les gens qui ont l'oseille au Mans? Et combien ils ont? Est-ce qu'ils veulent développer le club, en faire un grand club? Comment ça va se passer? Parce que là déjà il y a la montée qui est totalement inattendue. Quand on est venu avec l'after au Mans, on recevait Thierry Gomez, le club était quand même haut au classement, mais on n'arrivait pas à imaginer que ça puisse aller en Ligue 1. Donc qui sont les gens derrière? Combien il y a d'argent? Quelle est la taille du budget? L'ambition?
Alors le fonds Hautefil gère 150 millions d'euros d'assets, donc d'actifs. Derrière eux, ils sont avec un fonds qui s'appelle Tricorp aussi, qui gère 600 millions d'actifs. L'objectif, c'est pas de, pour être clair, hein, pas de dépenser 100 millions et de construire un club n'importe comment. C'est de construire un club étape par étape. Le seul problème, c'est que on est un peu trop vite sur les étapes. Pour la petite histoire, en octobre 2024, c'est le début de nos discussions avec Thierry Gomez. Le Mans FC est 13e de national. Ensuite, il y a 20 victoires d'affilée, quasiment, enfin 20 matchs sans défaite. Ils montent en Ligue 2. Quelques semaines après, on conclut l'accord. Avec un objectif de se maintenir le plus rapidement possible en Ligue 2. Bien entendu qu'on aide Thierry Gomez sur l'investissement pour pouvoir assurer, on va dire, une équipe qui peut se maintenir.
Oui, l'idée, c'était la montée sur 4 ans, non? C'est ça?
Ah, exactement. Ouais. L'idée, c'est de construire un club qui monte sur 3-4 ans en Ligue 1 et ensuite qui s'installe en Ligue 1 de manière stable. Mais on n'avait pas pour idée d'arriver tout de suite sur de la Ligue 1. C'est presque trop rapide pour nous. Parce qu'on arrive dans un moment où on n'a pas eu le temps de construire les fondations du club, on n'a pas de valeur de joueur pour pouvoir vendre et pour pouvoir un gros budget, donc on n'aura pas un budget de folie l'année prochaine. On va assumer, on va dire, un budget entre 25 et 30 millions et on assumera le risque.
25 et 30 millions en Ligue 1 l'année prochaine.
Voilà. Et on assumera le risque. On assumera le risque de descente. Mais après, on construit le club de manière sereine. On avait le 13e budget de Ligue 2. et on a fini deuxième du championnat.
Mais les gens qui ont mis l'argent, là, bientôt on donnera les noms, tout le public sait qu'il y a beaucoup de stars, beaucoup de gens connus dedans. Mais qu'est-ce qui les a motivés? Parce que y a plus de droits de télé en France, il y a pas de renta, comment on gagne de l'argent? Pourquoi ils sont venus en fait? Qu'est-ce qui les a intéressés?
Qu'est-ce qui les a intéressés? C'est le projet. Ils sont venus pour le projet, ils ont mis de l'argent, ils n'ont pas mis seulement leur nom, c'est important.
Djoko, il a mis de l'oseille?
Oui, ils ne sont pas venus avec leur nom.
Djokovic, il a mis de l'argent de sa poche?
Oui.
Mais il a mis combien?
Non, mais ça, je peux pas vous le dire, ça, bien non, entendu, vous savez bien.
Idée.
Non, mais il a mis de l'argent, je peux pas vous donner d'éléments, si on est sous contrat, ça c'est normal, mais chaque personne qui est venue...
C'est quantité négligeable ou ça?
C'est une quantité non négligeable.
Okay.
Et c'est pour ça que c'était un des points importants. Quand nous, on a construit le projet, on a étudié avec le fonds Outfield à peu près 100 clubs en Europe. On a étudié tous les clubs français, on a discuté avec 4 clubs, il y en a qu'un qui est ressorti tout de suite, c'est Le Mans FC, pour plusieurs raisons. La première, c'est on avait une gouvernance stable avec Thierry Gomez qui avait fait un très bon travail. On avait une ville qui était à 45 minutes de Paris, d'accord, c'est pas neutre, c'est le premier voire deuxième marché mondial.
En TGV quand il n'y a pas de retard.
En TGV quand il n'y a pas de retard, mais on est dans un environnement sain, tout de même à 2 heures de Paris. On peut développer des joueurs, on peut leur donner du temps de jeu. La théorie aussi d'Outfield, c'est de se dire on va être présent sur les deux plus gros marchés, que sont le Brésil et la France, à savoir qu'ils ont un club aussi au Brésil. Il y a une zone de chalandise de 350 000 personnes et des infrastructures sublimes. Le stade Marie-Marvin.
Attendez, je reviens quand même à Djokovic là. Ouais. C'est, tous ces arguments-là convainquent Djokovic.
Bien sûr.
Djokovic, il est pote avec.
Ou il est pote avec Goudzin.
Georgios
Frangoulis. Qui est le patron d'Ogberry et le futur mari de Zabalenka.
Le patron. Celui qui a le plus mis d'argent, qui est l'actionnaire majoritaire, c'est qui?
C'est Outfield. Et en fait, c'est un fonds.
C'est pas Frangoulis.
Non, Frangoulis, il met de l'argent dans le fonds. Djokovic, il met de l'argent dans le fonds. Et c'est ensuite le fonds qui acquiert avec ces personnes qui sont derrière.
Et vous investissez ailleurs que dans le foot, j'imagine, de fait?
Oui, ils investissent. Donc c'est la partie Outfield qui est la partie sportive. Ils investissent dans pas mal dans la tech au Brésil, sur par exemple de la billetterie, du contrôle d'accès.
Pardon de vous couper. Donc quand Djokovic investit, il investit dans Outfield ou il investit dans Le Mans FC?
Un fonds, ça fonctionne en plusieurs. Ça se sépare en plusieurs fonds en fait.
Plusieurs branches, d'accord.
Il y a un fonds dédié au Mans FC.
D'accord.
Donc Novak Djokovic, il investit à 100% sur le Mans FC.
D'accord. Comment il trouve ça rentable? Comment, si vous lui vendez quoi pour être rentable? Parce que comme disait Daniel, il n'y a plus un droit télé, il n'y en a plus un blé en France. C'est j'imagine sur une potentielle revente du club dans X années.
Voilà, qu'on soit assez clair. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de fonds d'investissement ou d'investisseurs qui viennent dans les clubs? C'est parce qu'il y a déjà un prix d'acquisition qui est raisonnable.
En tout cas,
raisonnable. Avec nous, on a choisi un club où il y avait des structures, des infrastructures, comme je l'ai dit, aussi un centre d'entraînement, etc., etc. Et avec, on va dire, un management qu'on va venir renforcer, parce qu'on estimait que Le Mans FC en national, c'était une sous-performance par rapport à la taille de la ville, par rapport aux infrastructures du club et son histoire. Et derrière, on va pas gagner d'argent dans un club sur le day to day, c'est-à-dire sur le PNL de la saison. On va le gagner, on va l'acheter X et on va le revendre 4X si on travaille bien. C'est là-dessus qu'on va trouver la rentabilité. Et l'objectif...
C'est de pas trop injecter d'argent dans cette période.
Exactement.
Aussi.
En tout cas, c'est d'être à l'équilibre sur la gestion du club. Au départ, bien entendu, on est obligé de mettre des fonds parce qu'au départ, on est obligé d'investir sur les infrastructures, sur les joueurs. Au bout d'un moment, il commence à y avoir une valeur sur les joueurs. Nous, ça nous aurait pris 3-4 ans quand même à faire, parce qu'il y a le centre de formation, c'est quand même un point extrêmement important.
Donc la ville vous a revendu... Vous pouvez racheter le centre d'entraînement et donc redévelopper le centre de formation qui n'existait pas, c'est ça?
Alors on a racheté le centre d'entraînement et on a investi sur l'académie qui n'existait plus, puisque le club est descendu en division 6.
Vous avez expliqué qu'on a un budget pour l'académie, quoi, 10, 15 millions?
Non, pour l'instant on a mis 4 millions, si vous voulez des chiffres. C'est pas non plus, on n'a pas non plus la catégorie 1 tout de suite. On fait étape par étape aussi. Il faut construire. On a la validation de la FFF et on l'aura officiellement au 1er juillet. Donc là, on peut garder nos joueurs, parce que ce qui se passait avant, c'est qu'on perdait nos joueurs. On en a perdu un qui est parti à Nice par ailleurs, gratuitement, parce qu'en fait, on peut pas les garder avant 20 ans, on pouvait pas signer de joueurs.
Okay. Et quand vous investissez, vous avez une échelle en vous disant, voilà, on est là pour 5 ans, 10 ans. Vous avez déjà à peu près, il y a une prévision sur la sortie?
Dans les fonds, de manière générale, on est entre 4 à 7 ans d'investissement. Voilà. Après, parfois, il y a des fonds, et celui d'Outfield, ils ont des fonds avec des durées un peu plus longues, c'est plutôt des durées de 10 ans. Voilà. Parce qu'on sait que sur un club comme ça, il faudra quand même construire tout ça. Il y a quand même 4-5 ans pour monter en puissance. Et ensuite, on sera à peu près, on estime à, voilà, ce qu'on appelle en running,
vitesse de croisière,
voilà, la vitesse de croisière, et c'est là où on va commencer à pouvoir regarder pour potentiellement.
Ça apporte quoi d'avoir ces vedettes, parce que bon, il y a Djokovic, Thibaut Courtois, Sabalenka et son mari,
Felipe Massa,
Kevin Magnussen, et d'autres vont arriver. Et je te donne
d'autres vedettes.
En tout cas, d'autres investisseurs connus.
Mais des sportifs.
Et pourquoi ils se rassemblent tous autour du monde? C'est d'abord ils se connaissent entre eux.
Bah. Comme on l'a dit,
ils font la Formule 1.
Parfois, en fait, voilà, c'est aussi pourquoi Djoko il vient. Bien entendu, c'est le projet, c'est la première chose, mais c'est aussi des réseaux. Je veux dire, si Djoko il est venu, c'est grâce à Georgios qu'il connaissait très bien, parce qu'il était, il est très présent dans le tennis avec Sabalenka, parce qu'il a aussi la marque Oakberry qui est sponsor de la Formule 1, de Alpine notamment. Et c'est comme ça qu'on a ramené Felipe, ensuite Kevin. Et du coup, pour eux, plutôt que d'investir tous les joueurs, vous le savez, ils investissent dans l'immobilier. Ils ont un investissement qui est peut-être un peu plus à risque que de l'immobilier, mais c'est leur cœur de métier. Ça les excite un petit peu et ils nous apportent quelque chose. Oui, parce que Felipe, il est déjà venu plusieurs fois. On voit que les messages qui sont passés avant le match... Je pense que c'est pas que de l'image. Je pense que quand on investit l'argent, c'est que c'est
la diversification. Mais c'est aussi
un investissement passion. Tu vois, la vidéo de Courtois, quand il monte, il est comme un dingue,
parce
Djokovic,
que c'est bon,
etc.
C'est le seul qui connaît le foot. Donc, on peut imaginer que ce gars-là, s'il vient un jour, il peut parler à votre gardien. Non,
mais Mbappé, il a racheté un club. Donc, on peut comprendre que les joueurs.
Mais fait Novak, par exemple, en termes de performance et de mental, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est
The Goat. Mais il faut en parler au club,
bien sûr.
Non, il faut qu'il vienne en parler au club, etc. Pour ça,
il faut savoir quand même que Novak, il joue encore au tennis. Vous connaissez les calendriers du tennis. Bien entendu, qu'il va passer, c'est prévu. On n'a pas encore les dates parce que ça dépend de ses performances sportives et sa priorité.
Et vous savez s'il se renseigne sur les résultats
Je sais pas. Vous savez, je suis sûr qu'il se renseigne sur les résultats. Il regarde à chaque match. Il tweet. Il met sur son Instagram. On le voit plusieurs fois faire aller Le Mans sur tout ça.
Donc il va prendre l'abonnement Ligue 1 Plus.
Il l'a déjà pris.
Non, là, il avait beIN Sport jusque-là. Mais là, il va passer à Ligue 1 Plus.
Non, Ligue 1 Plus, c'était déjà l'année dernière.
Non, mais
c'est
pas
Ligue 2.
Il a anticipé.
Il fallait qu'il regarde la Ligue 1 pour voir à quoi il allait se frotter. Là,
non, c'est incroyable, ces vedettes. Oui, c'est vrai que
Il faut noter la date de Le Mans PSG dans le calendrier, là où il y aura tout le monde. Quoi. Ils vont tous être là. C'est Daniel, il faut l'inviter pour Le Mans PSG. Tu vas voir tout le monde.
Le Mans PSG ou
au Marie-Marvin. Non, au stade Marie-Marvin. Ils seront tous là. Tu auras Djoko à côté de Daniel, à côté de M. Franck Goulis.
Avec grand plaisir, sachant que le stade Marie-Marvin n'a jamais vu la Ligue 1.
Ouais, c'est vrai.
Et Franck Goulis, il fait pas des boissons un peu bizarres.
Si, il fait du açaï. C'est un fruit brésilien qui est en fait une boisson énergétique naturelle au Brésil, qui est très prisée par notamment les surfeurs et qui donne vraiment de l'énergie, mais de manière naturelle.
Ah sur la plage, ils te vendent que ça.
Bah, exactement. Et il a commencé il y a 8 ans.
Envoyez-nous un ou deux cartons, là, on va voir si ça marche vraiment.
Je vais lui demander, il est encore à Paris, je sais pas s'il est déjà parti ce soir.
Ça marche du tonnerre, cette boisson. Je veux dire, c'est un vrai gros business.
Je crois qu'il y a plus de 1000 boutiques dans le monde maintenant. Il y en a 5 à Paris. Ça marche.
L'Acai Bowl, t'as jamais entendu parler de ça?
Non, je ne connaissais pas cette boisson.
Bien sûr.
On continue de parler du monde dans une seconde. On va parler quand même de l'année prochaine, de la Ligue 1, de l'entraîneur, et puis des questions sur la gouvernance.
Qui est convoité.
C'est pour ça. On va en parler dans une seconde. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, Jimmy Brown et notre invité Aymeric Magne, qui est donc le représentant de l'actionnaire Outfield au Mans. Est-ce que Patrick Vieira sera toujours l'entraîneur la saison prochaine?
Il est sous contrat, il est important pour nous dans le projet, donc oui.
Alors qu'il est convoité, on est d'accord?
C'est une rumeur, je peux pas commenter les
rumeurs. Non, c'est pas une rumeur, c'est une info RMC Sport. Donc il est sur la shortlist de Lens, donc voilà.
En tout cas, il est sous contrat.
Donc on a un coach qui est en Ligue 2 et... certains l'envoient comme, enfin, en tout cas, il est sur une liste de candidats pour Lens. C'est
un coach qui était en Ligue 2, avant était en N1 et avant était en N2.
Donc là, le fait qu'il soit sous contrat, ça veut dire que si un club le veut, il faut payer.
Oui.
Mais là, vous voulez le garder.
On veut le garder, c'est un super coach. Il a fait deux montées d'affilée, c'est quand même extrêmement rare. Avec un effectif. Qui n'était pas forcément sur le papier l'effectif le plus performant. Il a fait surperformer collectivement et individuellement les joueurs dans un état d'esprit. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les matchs du Mans, mais dans un état d'esprit vraiment.
C'était très agréable. Match, ouais. Après, avec tout le respect pour le Mans, on peut considérer que si Lens veut Vieira et que Patrick Vieira veut aller à Lens, ça va se faire. Parce que là, ils vont récupérer une indemnité sur Pierre Sage et de la même manière, ils paieront une indemnité au Mans pour. J'imagine que le contrat de Pierre Sage est plus important que celui de Patrick Vieira, pour dire les choses simplement.
Je connais pas le contrat de Monsieur Sage à Lens, mais.
Mais je suppose qu'un contrat d'un club de Ligue 1, c'est a priori promu de Ligue 2.
Oui, non, voilà, mais, c'est. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, pour un club comme Le Mans, garder un entraîneur comme Videra, c'est trop important. Alors, bien sûr que s'il le laisse partir parce qu'il a une offre incroyable et que le club s'en sort, mais de toute façon, ce sera une perte énorme parce que le gars, il est là depuis 2 ans.
Évidemment.
Non, mais c'est pire que Sage à Lens, là. Il a créé une aventure humaine d'un club qui, il y a 6 ans, était en DH. En R1, donc c'est un club qui a grandi avec son entraîneur, avec des joueurs aussi. Et les joueurs, c'est aussi les joueurs, c'est important quand même. Les joueurs, la majorité des joueurs du Mans étaient en national il y a deux ans.
Pour finir sur l'entraîneur, vous bossez quand même sur un plan B au cas où il s'en aille.
On bosse sur un plan, sur notre plan A, c'est notre entraîneur sous contrat.
Oui, mais j'imagine quand même qu'il y a des pistes. À partir du moment où on sait qu'il est convoité, vous travaillez quand même au cas où un club arrive avec la fameuse indemnité, non?
On travaille sur notre plan A.
D'accord, très bien. Donc, oui, les joueurs, tu voulais insister.
Autrement la question pour voir.
Non,
trouve une autre formulation. Non, voilà, ça peut marcher. Hein.
J'ai tenté, c'est bon. Tu voulais parler des joueurs en détail ou pas?
Les joueurs, le club, en fait, les joueurs, ils sont à l'image du club, ils sont à l'image de l'entraîneur. C'est beaucoup de joueurs qui ont découvert la Ligue 2 déjà cette année, qui découvriront, je leur souhaite, je ne sais pas exactement ce qui se passera dans l'effectif, mais la Ligue 1 l'an prochain, avec des joueurs qui étaient, voilà, qui avaient faim, qui étaient revanchards pour certains, qui venaient d'en dessous comme l'entraîneur, et qui ont cru en ce projet, qui ont cru aussi au président qui est en place et toute cette équipe qui a excellemment travaillé avec, moi, j'en parle aussi parce que, il y a un joueur, William Arrous, qui était avec nous les 2 dernières saisons, qui a signé au Mans cet été, et qui a donc découvert la Ligue 2 et qui découvrira la Ligue 1. Donc, forcément, c'est un club que nous, on a suivi particulièrement et qui est un exemple pour pas mal de clubs, comme Strasbourg avait fait déjà à une époque, de passer de la National 2 à la Ligue 1 en quelques années. C'est fort.
Alors, le fait que l'année prochaine, il y ait, quoi, vous avez dit 25, 30 millions, le budget?
Environ, oui.
Et que vous acceptiez l'idée que ça puisse mal se passer et que vous retourniez en Ligue 2. Mais si en revanche ça se passe bien, est-ce que l'idée c'est d'augmenter ce budget année après année?
En fait,
c'est quoi au final l'idée? Parce que si vous dites l'idée c'est juste de revendre dans 4 ans et tout, franchement ça fait pas rêver. Je veux dire, c'est du business, d'accord, mais pour les gens du Mans et tout, qu'est-ce qu'on leur vend en fait?
Alors, j'ai pas dit qu'on allait revendre dans 4 ans. J'ai pas dit ça. J'ai dit les cycles d'investissement sur les fonds d'investissement étaient de 4 à 7 ans. J'ai dit que les coups de fil étaient plus longs. Dans le foot, on était plutôt sur 10 ans, mais notre objectif, c'est pas de faire une, enfin, c'est aussi de faire une plus-value, oui, mais notre objectif, c'est de mettre Le Mans en Ligue 1, de structurer le club étape par étape pour qu'il s'y installe. Je précise, on veut absolument rester en Ligue 1 l'année prochaine. Maintenant, on assume aussi, on va pas faire n'importe quoi à mettre 50 millions sur la table, griller tout l'argent pour derrière gagner 1 ou 2% de chance en plus de se maintenir. Voilà, je pense que ça sera peut-être plus important de structurer le club et se dire bon, on descend en Ligue 2, mais on revient plus fort en Ligue 2 et ensuite on revient en Ligue 1, plutôt que se dire on reste 2 ans en Ligue 1 et ensuite on met la question là-bas.
Même si ce discours-là, c'était un peu le discours des Stéphanois quand ils sont descendus l'année dernière, on a vu que c'est difficile quand on redescend d'accéder. Elle est de plus en plus compétitive, la Ligue 2, ce qui d'ailleurs valorise encore plus ce que vous avez fait cette saison. Mais là, l'année prochaine, la Ligue 2, par exemple, c'est Saint-Etienne, c'est Nantes, c'est Reims, c'est beaucoup de gros clubs.
Et parce que la Ligue 2, et je parle sous ton contrôle, c'est pas du tout la même que la Ligue 1. Nous, honnêtement, quand on a joué contre Reims ou Saint-Etienne, individuellement, les joueurs en face, nous, on ouvrait les grands les yeux, en fait. Donc, du coup.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que techniquement, on avait des joueurs et physiquement des joueurs qui, individuellement, étaient certainement au-dessus des nôtres. Quand on voit l'attaque de Saint-Etienne, par exemple, ou quand on voit les joueurs, ou Zabi qui joue en Ligue 2 qui vaut 25 millions, bon, ça se voit quand même sur le terrain. Après, il y a une question de style de jeu, de collectif, et aussi de hargne et de volonté. Nous, notre force quand on est monté, c'est qu'on a gardé cette dynamique, que les joueurs, ils avaient faim, ils avaient très faim. Et en fait, ça s'est vu, chaque ballon, en termes de pressing, de contre-pressing, je pense que Le Mans, c'était la meilleure équipe de loin. Après, techniquement, individuellement, chaque joueur, on n'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais par contre, collectivement, le coach, là où il était bon, c'est qu'il avait une clarté sur ce qu'il voulait faire. Et les consignes, elles passaient de manière très claire au niveau des joueurs, et donc tout le monde comprenait le projet de jeu.
A priori, vous allez recruter en quelle proportion? Cet été,
À peu près un tiers de l'effectif. Aujourd'hui, on a 2 joueurs uniquement qui ont eu quelques matchs en Ligue 1. Donc Rabillard à l'OM qui a dû jouer 5 matchs et Boadès qui a fait quelques matchs aussi en Ligue 1. Et il est sûr qu'il faut qu'on ramène de la compétence Ligue 1 pour se donner le plus de chances de se maintenir. On en est conscient. On garde quand même cette dynamique et aussi une ossature par rapport aux joueurs qu'on performait, voire surperformait cette année.
Non, mais je repose la question. L'année prochaine, c'est 25 millions. Si vous restez en Ligue 1, est-ce que l'année d'après, ça peut augmenter, passer à 40 ou 50 millions? Est-ce qu'il y a un deuxième étage à la fusée?
Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oui. Mais une fois de plus, on construit le club étape par étape. C'est-à-dire qu'on va aussi créer de la valeur joueur. Et de la valeur joueur, qui dit valeur joueur, dit aussi valeur de revente. Ça fait aujourd'hui partie du business, d'autant plus avec les droits télé qui sont très limités. Donc forcément que...
Ça vous attriste?
Ça, on le savait avant.
Vous découvrez pas la Ligue 1, puisque vous l'avez dit, vous avez bossé à 3, vous connaissez les réunions de la LFP, vous connaissez les présidents.
Attends, Daniel, là-dessus, j'aimerais qu'on fasse la pause maintenant, comme ça on peut en parler en longueur et comme ça on sera pas coupé au milieu.
Pour valoriser les joueurs, forcément, il faut avoir les infrastructures qui permettent aux joueurs de se valoriser, les terrains d'entraînement de grande qualité, il faut avoir, je pense qu'ils en ont, mais voilà, que ce soit une salle de muscu, de la balnéo, enfin bref, des trucs pour la récupération. Et c'est aussi ça qu'aujourd'hui beaucoup de clubs cherchent à se structurer à l'image de même du plus grand club français qui est le Paris Saint-Germain qui a fait Poissy pour valoriser les actifs et le club.
On y revient dans une seconde avec notre invité, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
23h41, c'est l'After sur RMC jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz et notre invité Aymeric Magne, donc le représentant de l'actionnaire au Mans. Et c'est le moment où, Daniel, tu voulais parler des questions de gouvernance du foot français avec Aymeric. Des difficultés avec les droits télé.
Oui, effectivement. Vous arrivez, vous revenez en Ligue 1, donc finalement il n'y a plus de différence entre être en Ligue 2 et Ligue 1 au niveau de l'oseille qui rentre pour les droits télé. Quand vous êtes parti, c'était pas comme ça. Comment vous redécouvrez la Ligue 1? Comment vous analysez la situation et ce qui se passe? Et est-ce que vous croyez à une issue favorable un jour ou l'autre? Parce qu'on commence à désespérer que ça puisse bien se passer, quoi, ou bien se terminer l'histoire.
On redécouvre pas, parce que quand on a acheté le club, on savait exactement où on allait. On avait les droits, et du coup ça a aussi participé à la dévalorisation de du prix d'acquisition, forcément. Ça n'aurait peut-être pas été la même chose si on avait les droits d'avant. On a touché à peu près entre 1,6 et 1,8 sur la Ligue 2. On va toucher 5 millions sur la Ligue 1, avec 2 de garantie. On soit clair, ça veut dire qu'il y a 2 millions de garantie plus 3 millions qui viennent du fonds de réserve. Donc ça veut dire que quand moi j'étais à 3, on était sur entre 18 et 21. Donc la différence, elle est énorme. Et du coup, la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, je dis bien le bas de la Ligue 1, parce qu'il n'y a pas les droits qui sont liés à l'UEFA, elle est relativement faible. Ce qui fait qu'entre guillemets, si on redescend, le risque, il est...
Pas peur, alors qu'avant, on disait c'est catastrophe financière.
Alors que les salaires, forcément, sont plus élevés qu'en Ligue 2.
Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut être raisonnable et raisonné et essayer de pouvoir garder une masse salariale cohérente, puisqu'il y a un risque de retourner en Ligue 2. Et surtout, qu'il faut adapter aujourd'hui les salaires à la réalité de la Ligue 1. Et c'est un vrai sujet.
On sait que le président du Mans, puisqu'on en avait parlé avec lui, n'est pas le plus grand défenseur de la gouvernance actuelle et du président de la LFP. Comment vous avez analysé la situation et le fait qu'on soit arrivé à zéro et qu'on n'ait plus du tout de droit télé, qu'on ait une chaîne Ligue 1 Plus parce qu'on n'avait pas d'autre solution finalement, qu'on n'arrive à trouver aucun accord avec des diffuseurs?
Donc, premièrement, nous, on n'a pas de surprise et on le savait. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour nous, c'est un upside sur la suite. C'est-à-dire que dans notre business plan, on estime que la valeur de la Ligue 1, elle est pas adaptée. Ça, c'est clair et net.
C'est quoi, selon vous, la valeur de la Ligue 1?
Alors, je dis, Saada était venu à l'époque dans un conseil d'administration de la LFP. Il nous avait expliqué par A plus B que le prix, c'était entre 500 et 600 millions d'euros. Aujourd'hui, on est entre 150 et 200 millions d'euros. On estime qu'il y a un juste...
Je ne touche pas les 150-200 aujourd'hui.
Je parle de la valeur globale. Oui. Si on compare, on compare les choses. Saada, il nous avait parlé de valeur globale. Donc on
mais
estime.
Comment il l'estime, pardon, mais c'est tout simple. C'est le prix de l'abonnement fois le nombre d'abonnés. On tombe
globalement
loin,
en plus
500,
la pub, etc. Globalement, il avait fait son calcul et il l'avait montré. Montré de manière magistrale. Enfin, c'était une belle démonstration.
C'était quand ça?
C'était en 2022 ou 2023, si je me trompe pas.
Oui, parce que récemment, il a dit que ça valait plus que 200.
Après, forcément, le produit aujourd'hui, c'est aussi une question de concurrence. Il a été déprécié.
Le produit n'est pas plus mauvais qu'il y a 3-4 ans. Hein. Même en termes de qualité de jeu, de match, alors on a peut-être moins de vedettes.
C'est pas la qualité des matchs, c'est le manque de visibilité. T'as changé de diffuseur 1000 fois et tout ça.
J'ai bien compris, mais à force d'avoir usé les diffuseurs, d'avoir rompu la relation avec Canal, enfin tout ça, c'est les gens qui dirigent le foot français qui ont fait tout ça.
On est d'accord.
Donc aujourd'hui, on se retrouve à zéro.
Ouais.
Est-ce que d'après vous, il y a une issue possible à un moment? Est-ce qu'on est capable de retrouver? Maintenant, on ne dit plus un diffuseur, on dit un distributeur.
Ouais. Je pense que la première chose à faire, c'est qu'on essaie de marketer au maximum le produit Ligue 1, ce qu'on n'a pas fait jusque-là. On a essayé de faire des négociations, à mon sens, soit en gré à gré ou des appels d'offres qui n'étaient pas forcément adaptés. La priorité, c'est que le championnat soit sexy. Et aujourd'hui, à mon sens, il l'est pour personne. Alors que pourtant, comme vous le dites, la qualité de jeu, elle est là. On est le premier fournisseur de talent au monde. On vient de faire deux Champions League d'affilée. Alors c'est le PSG, hein, c'est autre chose, mais ça fait partie du championnat de France.
Donc comment on le rend sexy, pardon? Mais comment on rend le produit sexy? Vous dites qu'il faut qu'il redevienne sexy.
Bah déjà, moi, si je suis diffuseur, déjà vu les catastrophes de ces dernières années, déjà je me dis, moi, je vais pas parler avec le président de la LFP qui a géré le foot français comme il l'a géré. Je ne vais pas parler avec la LFP qui est dirigée en sous-main par un seul club. Déjà, je veux que ce soit nettoyé, propre, que tout le monde vienne me voir et que j'ai des gens unis face à moi, que j'ai pas des gens qui se font la guerre en permanence comme encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu un CA aujourd'hui pour dire que la proposition de loi qui veut réformer la gouvernance, c'est de la merde.
Il y a un communiqué de la Ligue.
C'est ce qu'on dit aujourd'hui.
Avec ces mots-là, mais
c'est ce qu'on dit aujourd'hui les gens qui étaient réunis au CA. Quand on voit la liste des gens, quand on voit la liste des gens qui aujourd'hui étaient au CA, Valdemar Quitta, Sartori, personne ne sait qui c'est Sartori, hein, à part que c'est le gendre de Ribaud et que c'est un laquais de Nasser. Donc j'ai dit Quitta, Sartori, Joannin.
Bernard Joannin, Damien.
Murat, qui a été acheté en trois restos. On a qui d'autre? On a Carl Olive. Carl Olive, il va à l'encontre du gouvernement et du parti avec lequel il est. Parce que maintenant, il est passé dans le parti de Macron. Donc, le cornu a dit que cette loi était importante. La ministre des Sports a dit que cette loi était importante. Mais lui, tellement il est fan baduf du PSG, que de toute façon, bonjour Nasser, merci Nasser, au revoir Nasser.
Les temps,
bon, on le sait. De toute façon, il a pris une autre option qui est, je pense à ma gueule, je gère mon dossier tout seul et j'y arrive parce que je suis le meilleur. Et parce que Lille, j'arrive à gérer ça tout seul et j'ai plus besoin de personne. Puis comme en plus, l'actionnaire au-dessus est pote Qatar et tout, donc il n'y a pas rien à dire.
Loïc Ferry?
Bah, Loïc Ferry, okay. C'est cuir chemise avec la brune, son ami de 20 ans.
Ah, j'en ai un là. Victoriano Medeiro.
Bah, déjà, évidemment. Sa présence au CA est complètement délirante.
Bien sûr.
Parce que c'est la deuxième voix du PSG, donc voilà. Délirant. Voilà. Bon, ben voilà.
Marc Keller?
On a tout dit. Bah, Marc Keller, il décide même pas. Je blaguais avec Kevin tout à l'heure parce qu'il n'a pas le droit à la télécommande à la maison.
Ah, bah oui,
il Keller, même dans son club. Il décide de plus rien à Strasbourg. Parce qu'il vient au CA, pourquoi faire? Voilà. Ça sert à rien.
Et donc, ces gens ont appelé une révision en profondeur, voilà, du texte.
Qui est des choses à revoir sur le texte, je peux être d'accord. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'image.
Les différents points ne sont pas délirants.
Voilà. Ils disent que la lutte sur le piratage n'est pas assez bonne dans le texte. Le modèle économique sur les droits télé n'est pas assez bon.
Bah, oui, merci.
L'impact financier direct des clubs via les paris sportifs.
Aujourd'hui, moi, si je suis diffuseur, je me dis, mais soit j'ai des mecs en face de moi qui sont tous d'accord. Il me présente un projet, il y a les 9 matchs, on avance, on arrête de se faire à la guerre. Et j'ai pas d'un côté tous les mecs que t'as cités et de l'autre côté, parce que faut citer les autres maintenant. Marseille, Lyon, Rennes, Lens.
Le PFC.
Mmh. On est en train de parler de gros clubs quand même, hein.
Le Mans, du coup.
Le Mans, du coup, maintenant, qui va être dans le camp d'en
face. Je parle pour vous, hein, mais c'est Thierry Gomez qui nous avait parlé quand il était venu au Mans en février.
Moi, si je suis diffuseur, je me dis, attends, mais soit il me nettoie la vitrine. Et on avance et on travaille ensemble. Soit j'y vais pas, quoi. Parce que je sais jamais de quoi ils sont capables. Non, mais t'as vu les bras cassés.
Pour revenir sur ce que tu disais juste sur la question de distributeur diffuseur, ils espèrent bien revenir à des diffuseurs, parce qu'il y a un des points où ils disent on veut pas d'affiche en clair pour pas nuire au prochain appel d'offres. Donc ils espèrent bien qu'il y a un prochain appel d'offres et qu'il y a un nouveau diffuseur.
Ça je l'entends, c'est quelque chose qui
mais j'aimerais bien, du coup, la réponse à la question que j'ai posée à Wickman sur le fait de rendre sexy le championnat, comment on fait en fait?
La première réponse, et je pense que c'est là où t'as raison, Daniel, c'est que il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Et c'est très difficile de trouver un intérêt collectif entre différents clubs. Pourquoi ? Parce qu'on parle pas de, d'un côté, il y a des très gros clubs qui aujourd'hui se focusent uniquement sur des droits UEFA.
Exactement.
De l'autre côté, il y a des petits clubs, c'est un championnat de 5-6 en Ligue 1, Le Havre, Le Mans, qui se battent pour 4-5 millions d'euros. De l'autre, on a la Ligue 2 qui récupère 1 à 2 millions d'euros par club. Donc en fait, on parle pas tous la même langue. Et le problème, c'est pour construire un produit, et c'est ce que font les ligues fermées, hein, je suis désolé de le dire, mais en fait, ils se mettent tous autour de la table. Ils s'accordent d'abord et derrière, ils ont un produit qui est cohérent, consistant, et ils arrivent avec une seule voix Et c'est comme ça que ça marche.
T'as pas besoin d'être une ligue fermée. Regardez la PL, par exemple. C'est pas
mais
fermé.
Je donne l'exemple exagéré. Bien sûr, la Ligue 1.
Aujourd'hui, la première ligue, c'est bien sûr l'exemple, mais ce n'est pas que la première ligue. En fait, bon, pour ceux qui suivent un petit peu les épisodes de la série sur le petit club gallois de Wrexham, en fait, tu comprends que déjà, il y a la Football League, c'est-à-dire les quatre premières divisions professionnelles. Si tu rentres dans les quatre premières divisions professionnelles, donc disons en France, on a transformé le national cette saison en Ligue 3 à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en France, voilà, la Football League française, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Si les clubs français ne se rendent pas compte que tout le monde doit manger, parce que si tout le monde mange et que tout le monde mange à sa faim, de la Ligue 1, du premier au dernier, mais également jusqu'au dernier de la Ligue 3, voire à ceux qui vont descendre dans le futur national, eh ben ça permettra à tout le monde d'aller piocher dans ces clubs qui seront mieux structurés, comme font les clubs anglais qui vont régulièrement prêter ou piocher dans les divisions inférieures, parce que ce sont des clubs qui sont bien structurés. Et donc, en pensant collectif, eh ben on va tous arriver plus loin. Mais en pensant que d'abord, je garde mon prêt gardé, d'abord, c'est mon club, d'abord, c'est mon bilan...
Le pré carré.
En gardant son pré carré, je peux te dire que c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire grandir la Ligue 1 et le football français.
Et là aujourd'hui, c'est chacun sauf son cul.
Voilà.
Parce qu'il y a également dans le CA aujourd'hui, il y avait également l'UNFP. L'UNFP, c'est fragile l'UNFP. Et puis ils ont tous leurs petits avantages. Ils sont bien, ils vont pas se brouiller avec le grand patron. Donc ils sont là, ils disent bon alors vous décidez quoi, allez on est avec vous. Voilà, c'est comme ça là, ils sont tous derrière. On sait, on l'a raconté mille fois. De toute façon, on sait.
C'est pour ça que les investisseurs privés arrivent, parce qu'il y a des besoins de cash, pour être clair. Et ils viennent et ils pensent que en travaillant de manière collective, et c'est ce qu'ils voient dans d'autres pays. Donc et c'est peut-être ce qui va arriver un jour sur la Ligue de football professionnelle.
Il faudra aller changer le CA déjà. Mais là le CA il est complètement verrouillé. Le CA, il est pro-Nasser, 100%. Et lui, le développement de la Ligue 1, on a bien compris que ça l'intéressait plus maintenant. Parce que lui, il est dans le développement européen et mondial du PSG. La Ligue 1, c'est juste son tapis de course. C'est juste une réalité, c'est tout.
Je pense que les objectifs du PSG, c'est de chaque année gagner le championnat de France, la Coupe de France et surtout la Champions League.
Oui, ouais, mais en fait, le problème, c'est gagner la Ligue 1, même s'ils sont deuxième une fois, l'important, c'est qu'ils soient en Ligue des Champions, c'est tout. Et ça, ils le sont les yeux fermés. Donc... La Ligue 1, le développement de la Ligue 1 ne les intéresse plus. C'est plus leur marché. Ils ont plus de marché en Ligue 1, c'est terminé.
Ah, je pense que si la Ligue 1 est faible, sur le long terme, ça ne les aidera pas à gagner une troisième, une quatrième, une cinquième Champions League. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2008, il y a tout l'allant qui disait l'entraînement, c'est plus dur que les matchs de championnat, à l'époque du Grand Lyon. Mais ça a fait une certaine limite à mon sens dans leur développement, et Lyon aurait pu gagner la Ligue des Champions peut-être s'ils avaient un peu plus de concurrence. Donc après, avoir un deuxième, un troisième,
le paradoxe du PSG, c'est deux Ligues des Champions alors que justement il y a une Ligue 1 faible.
Le problème c'est le foot a beaucoup changé depuis cette période là et aujourd'hui si tu te mets uniquement dans une préparation comme ils l'ont fait cette année où la Ligue 1 sert d'entraînement et que effectivement ensuite l'entraînement le vrai est même plus dur que les matchs de Ligue 1, ils arrivent au top en termes d'intensité et de physique et de forme physique pour la Ligue des Champions. Et surtout la Ligue des Champions a changé. Maintenant il y a plus de matchs. Donc plus de matchs, ça permet d'être dans le haut niveau plus souvent. Et donc on n'est plus dans le cas de figure de Lyon où ils avaient besoin de concurrence. Aujourd'hui le PSG a plus besoin de concurrence en Ligue 1.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que si le fait de prendre la Ligue 1 comme un entraînement et qu'en parallèle il y a des équipes qui se développent, oui, mais peut-être que tu peux perdre le titre à force parce qu'il y a d'autres qui travaillent mieux. Ce serait ça une logique de championnat compétitif.
Il y a quand même une différence de x2,5 sur le budget de celui qui est derrière quand même. Hein.
Mais même plus.
Oui, même avec les remplaçants.
Le PSG depuis 2012, elle a donc perdu deux fois, donc en 15 ans. Et si jamais il devait le reperdre une autre fois, et alors quoi?
Oui,
et alors? Est-ce que c'est un drame? Tu termines deuxième, tu retournes en Ligue des Champions.
Là, il a raison.
C'est plus leur marché.
L'objectif du PSG, c'est la Ligue des Champions.
Et même ton marché et même ta clientèle ne serait même pas affectée par la perte du titre, au fond.
Bon, Aymeric, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va suivre ce projet parce que franchement on est
Pour rendre la Ligue 1 sexy, Djokovic et consort.
Quand Djoko vient, j'appelle Daniel.
C'est quoi les futures étapes là? Donc il y a une nouvelle star qui arrive. C'est ça ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Non, il me parlait d'investisseurs. Étapes, c'est transitionner d'un mercato de Ligue 2 à Ligue 1 quand on vient de National. Donc là, il y a un vrai travail de fond avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Ça, c'est certain.
Et donc, qui va s'occuper de tout ça,
On est en train de.
C'est la direction en place. Il va y avoir des changements dans l'organigramme.
Directeur sportif.
Il va y avoir un directeur sportif.
On va structurer le club à la fois sur la partie administrative, business.
C'est Florentino s'il change vite d'avis. On ne sait jamais. Ah tiens, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de l'histoire.
Non, mais on peut en parler là, si tu veux.
Non, 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 on n'a pas le temps, on fera demain.
Bon, je te gardais 3 minutes, hein, je pense que c'était bon. Bon, très bien. Merci Aymeric. J'ai 2-3 infos pour finir quand même, surtout qu'on aurait pu parler de Lorenzi, mais c'est pas grave. Donc, sur Lamine Yamal, donc on repasse sur la Coupe du Monde, il y a inquiétude après sa blessure, il est touché aux ischio-jambiers. Et bah, De La Fuente a été très rassurant aujourd'hui. Si tout se poursuit normalement, comme jusqu'ici, il devrait être prêt pour le match du 15 juin, donc pour l'entrée en lice de l'Espagne.
Grade 2, 3 à 4 semaines, voilà. Pour être au top, c'est normal.
C'est pas pour autant qu'il va jouer le premier match, dit De La Fuente. On verra la situation à ce moment-là. Donc peut-être aussi qu'ils vont le préserver un peu sur le début de compétition. Mais voilà.
Non, sur Lorenzi, ce qu'on a appris de nouveau, c'est qu'en fait, certes, il a donné son accord à Nice et signé le contrat le jour de Marseille-Nice, donc fin avril.
Ouais.
Mais en fait, l'histoire, c'est pas. Je signe à Nice et ensuite l'OM s'intéresse à moi et donc forcément ça me fait changer d'avis, tout ça. En fait,
ça, c'est ce qu'a raconté Jean-Pierre Rivère, notamment en fait, dans l'after après le barrage.
Discutait.
Qu'on en plus.
Non, je crois pas. En fait, Greg Lorenzi discutait avec les deux clubs. C'est pas l'OM qui est venu après Nice, il n'y a pas une chronologie.
Ah oui.
Il
oui.
discutait avec les deux.
Ça, c'est la vérité, mais c'est pas ce que racontait Rivère, c'est bon, ça que je te dis. Mais ok.
Il discutait avec les deux clubs, donc il savait très bien que l'OM était intéressé. Et malgré tout, il a décidé d'aller à Nice. Donc, il avait d'abord donné sa parole, puis signé le contrat. Mmh. Et Marseille soutient, encore aujourd'hui, à Marseille, on dit, mais nous, on ne savait pas que Lorenzi avait signé un contrat. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ça veut dire que c'est Lorenzi la personne bizarre dans l'histoire. Parce que si tu discutes avec deux clubs, que tu finis par en choisir un et que tu annonces « c'est bon, je signe, je suis avec vous » et que tu ne vas pas voir l'autre pour lui dire « j'ai choisi », je trouve que c'est quand même très bizarre comme méthode.
Et surtout, moi, je comprends pas ce qui l'a fait changer d'avis, puisqu'il parlait autant aux deux clubs, tu vois. S'il s'engage avec Nice et que Marseille se réveille, bon, bah, ok, ça peut se comprendre et
alors, tout. Mais s'il parle avec ces deux à égalité. Ce qui a pu faire changer, c'était effectivement la situation du club à ce moment-là. Ouais. Même s'il y avait la clause elle était nette dès le départ. Mais il y a tout ce qui a commencé à circuler sur l'éventuelle vente du club. En gros, je ne sais pas où ça va finir par aller. Mais pour Nice, c'est forcément un préjudice. Et là, je comprends parfaitement Jean-Pierre Rivière la raison. Parce que dans le laps de temps, ils ont viré Flo Maurice. Mmh. Et il dit, bah, attends, mais maintenant tu nous dis non. Nous, on n'a plus de directeur sportif. Donc, il faut qu'on se mette à rechercher un directeur sportif. Et puis encore maintenant, on est resté en Ligue 1. Je dis, bah, attends, oui. Où tu nous plantes.
Bah, oui.
Donc, moi, je comprends parfaitement qu'il y a un préjudice qui va forcément se terminer au prud'homme. Mmh. Lorenzi veut aller à l'OM, il va à l'OM. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que si à l'OM, on dit, bah, l'autre, il nous a pas prévenu qu'il avait signé un contrat.
Mmh. Mais il y a l'histoire donc du CDI éventuellement pour Lorenzi.
Ça veut dire que c'est Lorenzi qui a quand même une personne à la parole un petit peu douteuse quand même.
Ce qui peut éviter les prud'hommes, c'est s'il y a donc bien un CDI à Marseille qui passe au-dessus le CDD éventuel à Nice. Ah. Bon, on en reparlera et on vous tiendra au courant dès qu'on aura de nouvelles infos. Les nuits du Casar enchaîné arrivent tout de suite. Bonsoir.
Et bonsoir, bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on s'amuse bien sur ici.
Hein, comment ?
Une heure spéciale sur Lorenzi.
Sur Le Mans. On va faire une heure et demie sur Le Mans. Déjà, vous avez fait combien ?
Excuse-moi, Le Mans.
45 minutes. Bravo, monsieur. Respect. 45 minutes sur Le Mans.
Tu as vu les stars qu'ils ont ?
Je sais, mais c'est...
Est-ce que tu veux des boissons énergétiques ?
Énergisantes. Non, énergétique.
C'est une barre énergétique, peut-être.
Non, non, c'est une boisson énergétique, énergisante.
Ouais, ouais, même le mec, il connaît pas le nom. C'est quoi
le Marie Sabalenka.
C'est vous le Marie Sabalenka. Mais non, c'est. Putain, on comprend rien, votre émission. 40 minutes sur le vent, puis la Coupe du Monde. Là, on craque, on arrive au bout du carton.
Et vous parlez de quoi ?
On va parler de Xavier Dupont de Ligonnès.
Ah, mais c'est pour demain.
Non, demain.
Ah, demain, d'accord.
Donc là, on va parler des séances.
Extraordinaire. Épisode avec le faux prêtre.
Ah là, je pense que Julien Courbet, il va partir avec Patrick Bruel en fin de carrière.
Ah là, c'est mythique.
Compliqué. Non, là, c'est demain que vous avez eu pour Liganès. Aujourd'hui, c'est sûr. Et ça va être fabuleux. Oui. Dominique Rizet, on aura tous les meilleurs. Non, mais là, demain. C'est pas une blague.
Oui, d'accord.
Là, ce soir, c'est les séances de tir au but les plus stressantes que vous ayez vécues.
Vous l'avez pas déjà fait, ça.
C'est pas hier soir, ça.
Attends. On va faire l'after va nous faire un procès en vous l'aviez déjà fait.
Les séances, en fait, elles ne tiennent qu'à la personne qui la regarde parce que son cœur est
sûr. C'est le principe. J'ai déjà entendu deux émissions. Les gens,
on est ravis que tu écoutes l'émission.
Pardon, je suis désolé. Excusez-moi, j'arrive dans l'émission. T'es complètement cramé, Casar.
Ah oui, c'est pas ça du tout.
Non, mais ça, c'est une question de présentation.
Ah oui, c'est ça. Ok,
quoi. Ce soir, on fait les lâcheurs.
Un message.
D'accord.
T'as raison.
Les gens qui lâchent.
On fait les lâcheurs. Tu peux être pour la ramasse.
C'est quoi les gens qui lâchent?
Les gens qui lâchent. À cause de Pierre Sage qui a lâché, qui hier s'élance.
Jacques Delors, il lâche aussi.
Très bien.
Mussolini, alors lui, bon, c'est... Oui, on en parle beaucoup. Il a un peu lâché.
Merci.
Allez, c'est parti pour les nuits du Casar enchaîné. Et l'after revient demain après le match des Bleus contre la Côte d'Ivoire. Ciao.
RMC, l'after foot.